Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match, 40e de la saison 40. Je salue les auditeurs du département des Landes et tous les autres également, vous tous, jusqu'à 20h avant de retrouver à partir de 20h précisément et jusqu'à 22h ce soir RTL Foot, veille de la dernière journée du championnat avec un méga multiplex, 10 matchs à suivre de 20h à minuit. Ce sera dimanche soir, demain soir, suspense. Dernières infos et réactions d'avant-match avec encore plus de débats entre 20h et 22h dès ce soir. Dans l'immédiat et avec moi en studio, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir,
bonsoir
Philippe.
Christian, bonsoir à toutes et à tous.
Dominique Sévérac, le Parisien aujourd'hui en France, partenaire du service des sports. Bonsoir Dominique.
Bien le bonsoir à tout le monde.
Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Et David Aiello, spécialiste des affaires institutionnelles dans On fait le match.
Oh là là.
Bonsoir, bonsoir David. Autoproclamé. Messieurs, au menu ce soir, Karim Benzema, retour chez les Bleus, pour le meilleur ou pour le pire?
On va en parler.
Après avoir critiqué le championnat toute la saison, les mêmes désormais le trouvent formidable grâce à son suspense. Eh oh, les girouettes, on vous a reconnu. Mais est-ce que vous ne manquez pas de conviction et un peu d'amour propre? Je poserai la question, mais pas à vous, bien sûr, à ceux qui nous écoutent. Les trophées UNFP ont fuité. On vous dira tout et on vous demandera, à vous les auditeurs qui nous écoutez de RTL, de réagir sur Twitter @RTLFoot. Message relayé par Baptiste Durieux. J'en profite pour saluer Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match.
Et une question foot rugby, mesdames, messieurs. En foot, une Ligue des champions, c'est mieux qu'un titre de champion. Mais en rugby, un titre en top 14, est-ce que c'est pas mieux qu'une victoire en Coupe d'Europe? Jean-Michel Rascol, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Répondez sur le champ, s'il vous plaît.
Ben, ça dépend des clubs. Les clubs qui ont déjà des boucliers de Brennus dans la vitrine, ils sont forcément plus intéressés par la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, par exemple, c'est ce qui fait rêver le Racing de Jackie Lorenzetti, puisqu'il y a déjà eu un titre et un bouclier il y a quelques années. Aujourd'hui, eh bien, le club de la capitale aimerait bien remporter la Coupe d'Europe. Donc, les avis sont partagés selon la vitrine du club en question.
Parce que nous, en foot, enfin en tout cas nous, le PSG préfère largement, messieurs, une victoire en Ligue des Champions qu'un titre de champion.
Ça dépend des clubs, j'ai envie de dire, comme
Dominique Sévérac.
Ça dépend des clubs.
Alors, qui est dans le sillage du Racing pour viser uniquement la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain?
Je pense que le Paris
Saint-Germain. Non, j'ai posé la question inversement. Qui préfère un titre de champion, un titre de Ligue 1 et une finale de Ligue des Champions?
Tous ceux qui ne peuvent pas gagner la Ligue des Champions. Lille, Brest, Lyon.
Oui, mais Marseille. Oui, quand même. Si Lille, tu leur dis, c'est soit le titre de champion, soit l'année prochaine vous gagnez la Ligue des Champions, ils choisissent la Ligue des Champions.
C'était ma question.
Parce qu'en foot, la Ligue des Champions est au-dessus de tout. Alors que c'est vrai qu'en rugby, on peut en discuter, c'est au niveau populaire, au niveau du retentissement populaire, c'est vrai que je pense qu'il y a match entre un titre de champion et un titre de...
Oui, mais c'est aussi la densité du championnat. C'est-à-dire qu'on peut estimer que le top 14 est au rugby, ce que la Première Ligue est au football. On le voit bien, vous avez deux clubs français qui sont en finale de l'équivalent de la Ligue des Champions. Ce qui signifie que gagner le championnat de France, c'est une forme de Graal, comme gagner la Première Ligue pour un club anglais avec une concurrence énorme.
Et d'ailleurs, le score entre La Rochelle et Toulouse, Jean-Michel Rascol,
9-6 pour La Rochelle, on a proche de la mi-temps. J'ajoute sur le débat que vous venez d'engager que la Champions Cup du rugby n'a pas la culture ni l'histoire, bien sûr, de la Ligue des Champions ou de la fameuse compétition européenne majeure du football, puisqu'elle n'existe que depuis 1996.
C'est l'histoire qui manque à cette Coupe d'Europe de rugby.
Et puis aussi peut-être la puissance économique. Aujourd'hui, le top 14, c'est le championnat le plus cher au monde. C'est 97 millions d'euros par an versés par Canal+. Si vous comparez avec le premier chiffre qui est le championnat anglais, c'est plus de moitié moins, c'est 40 millions d'euros par an. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le top 14 aimante tous les meilleurs joueurs du monde et ça participe aussi de son prestige.
Mais vous voyez, au niveau du retentissement, on n'y est pas du tout. Hier soir, Montpellier gagne la soucoupe d'Europe de rugby, qui est l'équivalent de la Ligue Europe pour les footeux. On a deux clubs français en Ligue des Champions de rugby et bon, on en parle bien évidemment, mais les répercussions ne sont pas les mêmes.
Vous n'avez pas cassé l'antenne par exemple. Vous n'avez pas annulé, on refait le match pour la finale.
Je vous rappelle, Christian Olivier, que vous êtes
énorme fil rouge, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr.
Attention à l'égalisation justement du Stade Toulousain par le pied de Romain Ntamack. Voilà qui est fait, le ballon passe entre les poteaux. Égalisation 9 partout, juste avant la mi-temps, 37 minutes.
Allez Philippe Sanfourche.
Non, je voulais juste dire, la France n'est pas Paris. La France n'est pas Neuilly sur Seine et ce studio. Faites 500 ou 600 kilomètres au sud et un peu à l'ouest, vous allez voir si aujourd'hui le monde ne tourne pas autour du ballon ovale.
Est-ce que la chaîne Équipe a-t-elle fait une journée spéciale rugby, par exemple ?
Écoutez, je ne crois pas, non. Ah, voilà, je n'ai pas été au courant.
Mais la une de l'équipe, quand même.
Bah oui, vous voyez.
Énorme fil rouge, évidemment, sur ce match. Fil rouge, je ne voulais pas en parler, fil rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas la signification de fil rouge, mais enfin, on va suivre. Donc, antenne ouverte, on va dire ça comme ça.
Voilà, le rouge est la couleur d'RTL et nous sommes à l'heure de cette finale.
Ça vient d'où d'ailleurs, fil rouge ? On sait pas.
Vous demanderez à Florian Gazan.
Ah ouais, la chronique. La chronique de Florian Gazan. Plein d'autres sujets foot, hein, évidemment, parce que là, je vous ai donné un petit sommaire, mais on parlera également de la Coupe de France, de la Coupe du Monde, de Memphis Depay. Dans les tirs au but, vous le savez, les plus faibles se ramassent à l'appel. On va parler également du foot espagnol. Bonsoir Mathias Valton.
Buenas tardes, messieurs.
Car se joue depuis 18h également le titre d'Espagne entre l'Atlético, qui a normalement les faveurs du pronostic, et le Real Madrid de Karim Benzema.
Ouais, deux points les séparent et statu quo, puisque les deux clubs madrilènes sont menés. À la 18e minute, Oscar Plano, l'attaquant de Valladolid, a ouvert le score en contre-attaque, la seule attaque d'ailleurs de Valladolid. Donc l'Atlético est mené 1-0 à Valladolid. Et deux minutes plus tard, alors que quand même Ramos et Marcelo avaient célébré cette ouverture du score de Valladolid, et bien deux minutes plus tard, Villarreal a également ouvert le score au stade Alfredo aussi. Di Stefano à Madrid. Donc les deux clubs madrilènes perdent et pour l'instant l'Atlético est toujours champion d'Espagne.
Et là aussi gros fil rouge sur le rugby, gros fil rouge sur le football.
Vous ne vouliez pas le dire mais finalement...
Mais oui, il faut le dire, il faut insister. Premier débat messieurs, dans Fait le match, pour ou contre messieurs, premier débat, on y va à 18h37, premier débat pour ou contre la chanson du rappeur Youssoupha. Ah ben c'est un vrai débat.
Pourquoi on serait contre?
Ah non mais...
Expliquez-moi.
Alors d'abord je voudrais quand même vous dire que l'on peut débattre de cette actualité-là sans être un facho, sans passer pour un réactionnaire, sans être le sous-marin du Rassemblement National. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a un homme politique qui s'appelle Jordan Bardella, qui est le numéro 2 du Rassemblement National, qui, sur le service public, a dit que le football français, en tout cas le Didier Deschamps plus précisément, avait cédé à une partie racaille de la France. C'était sur le service public. On est d'accord. Donc j'engage le débat.
Ouais, mais on peut le regretter.
Je rappelle que ce n'est pas l'hymne officiel de l'équipe de France de football. C'est un clip promotionnel à l'occasion de la liste des 26 sélectionnés dévoilée par Didier Deschamps.
Bon, je pense que Didier Deschamps n'a pas validé le nom de la chanson, vous voyez quand même.
À l'occasion des 26.
Mais tout ce qui s'est passé cette semaine me désespère, au niveau de ce débat là sur ce chanteur que je ne connaissais pas.
Youssoupha, vous ne connaissez pas Youssoupha ?
Ouais, non, je suis un vieux monsieur. Et mes enfants sont trop jeunes pour que je le connaisse, il ne m'intéresse pas, mais j'ai rien contre lui, je m'en fiche. Tout ce qui s'est passé aussi, et là je mets aussi en cause quelque part notre profession de journaliste, autour du rappel de Karim Benzema me désespère également. C'est-à-dire que je m'en fiche royalement que l'on appelle des gens du Rassemblement National, du Parti Socialiste, des Républicains, peu importe, pour savoir ce qu'ils pensent du retour de Karim Benzema. C'est d'une extrême tristesse, comme ce débat autour de la chanson de ce monsieur. Alors je crois qu'il avait un peu été critique envers la France ou envers l'État français, je sais.
Non, je ne sais plus. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que si vous voulez, d'abord on parle d'une chanson que personne n'a écoutée. Alors je vous propose quelques paroles.
Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1. Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens, c'est jour de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos écrit.
Voilà, bon. Moi je l'ai écouté jusqu'au bout, ça fait 2 minutes 38, il n'y a pas une parole, il n'y a pas un mot
susceptible. Donc où est le problème,
le problème
on
c'est
aime,
pas...
on n'aime pas, mais alors,
non, non, mais la question...
Juste un mot les amis, pour vous indiquer que c'est la mi-temps à Twickenham et que c'est La Rochelle qui mène 12-9, un coup de pied de Yaya West, le demi d'ouverture à la dernière seconde pour donner un petit avantage à son équipe au moment de siffler la mi-temps. 12-9 pour La Rochelle.
Si Jean-Michel est retour évidemment pour la seconde période. Non, ce n'est pas la chanson qui pose problème d'ailleurs, ma question c'est pour ou contre la chanson de Youssoupha. C'est pas pour ou contre Youssoupha. En revanche, si je vous pose la question pour ou contre Youssoupha, vous me dites qui est ce monsieur et qu'a-t-il fait ? Il a un passif, oui, incontestablement. Oui, oui. Il a un passif, pour ceux qui nous rejoindraient, qui n'ont pas écouté les émissions précédentes ou sur l'antenne de RTL ou par ailleurs, il a un passif avec une chanson très violente, avec un fantasme de viol vis-à-vis de Marine Le Pen. Il a une chanson très violente vis-à-vis de Zemmour, où carrément il appelle à lui faire la peau, mais il y a eu un procès. Zemmour a gagné en première instance, il a été débouté en seconde instance. Donc voilà pour les faits. Donc la chanson, sur les paroles, rien à dire, très clairement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu choisir quelqu'un d'autre qui avait ce passif-là ? C'est la question que je pose.
Vous savez, Christian,
Dominique Sévrac,
ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a passé la dernière fois 8 heures devant un juge pour s'expliquer sur une affaire avec une femme qui prétend qu'elle a été victime d'abus de sa part, de harcèlement sexuel et tout ça. Et je n'ai pas entendu d'appel à la démission de qui que ce soit, même de M. Bardella. Donc je pense qu'il avait envie de se faire un petit coup de pub cette semaine.
Mais parce qu'on en a parlé dès le début.
Donc,
mais on n'est pas obligé de débattre à l'aune de ce qu'a dit Jordan Bardella.
Non, mais je ne débat pas à l'aune de ce qu'il a dit.
On peut débattre à l'aune du passif du chanteur en question.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de gens qui sont... vous dites qu'il a gagné pour l'instant un appel, il a perdu en première instance face à Eric Zemmour. Il y a plein de gens à qui ça arrive d'être attaqué en diffamation. Je l'ai été par le club d'Ajaccio, ils ont perdu.
Si les paroles, effectivement, des chansons précédentes écrites par ce rappeur ne vous choquent pas,
c'est ça, c'est une fiction. C'est-à-dire que quand je vois un film de Quentin Tarantino où tout le monde se tue, je me dis pas Quentin Tarantino prône l'ultra-violence dans la société américaine ou mondiale.
Mais est-ce qu'on a besoin pour le sport, pour un championnat d'Europe, pour une équipe de France et avec une compétition à venir, est-ce qu'on a besoin, sinon, d'un cet ambassadeur, en tout cas, de quelqu'un qui rassemble de cette façon.
Vous savez, les autres hymnes étaient il y avait eu Johnny Hallyday.
Ce n'est pas la chanson officielle de l'équipe de France, je le répète.
Il y a eu Catherine Lara. En général, c'est pas très bon. Celle-là, elle est un peu dans le même tonneau que les autres. Elle est pas terrible. Moi, je connais Youssoupha, le rappeur. C'est un caca du Val-d'Oise. C'est plutôt un super rappeur. Il est plutôt bon. Ses textes sont assez bien écrits. Mais ça, je trouve que c'est pas sa meilleure. Mais ça, c'est un goût personnel.
David Ayello.
Non, parce que là, vous parlez de son passif. Dans la case actif, on pourrait dire aussi que c'est un vrai passionné de foot. Moi, j'ai commenté des matchs de la Coupe du Monde 2014 avec lui. Il connaît très bien le foot. Donc voilà, aussi, on peut saluer aussi le fait qu'effectivement, on a fait appel.
C'est pas un argument.
Ah, bah si, c'est un argument. Puisque là.
Il y a au prétexte que vous connaissez le foot, vous pouvez tout faire.
Vous dressez un portrait un petit peu à charge en disant voilà ce qu'il y a à son passif. Moi, j'ai tendance un petit peu comme Dominique à dire bon, il s'agit d'un artiste. Si on commence à faire la liste des artistes qui ont effectivement soit un passé judiciaire ou des faits divers qui leur colobasquent, on n'a pas fini quoi.
Donc moi, si c'était il était accusé d'avoir violé une femme, s'il avait harcelé un enfant, mais là, si c'est des polémiques avec des polémistes ou si c'est pour moi ça ne me dérange pas. Si en revanche on sort des textes et là il a fait quelque chose à quelqu'un, il a sombré dans la violence, là je serais d'accord avec vous. Là, je dirais, pourquoi on prend un rappeur qui a
alors, je veux la réaction de Roxana Maracineanu, ministre déléguée au sport. Cet artiste, cette chanson servira de trait d'union entre les joueurs de l'équipe de France. On a besoin d'union entre les joueurs de l'équipe de France. Ça veut tout dire. Il y a du sous-texte.
Mais non, mais
il y a du sous-texte.
Vincent Candela, il avait trouvé lui-même.
Il y a des unions au sein de l'équipe de France. On a besoin de trait d'union.
Alors, aucunement. Je pense tout simplement que ce que ça veut traduire, c'est que pour une fois, une chanson qui est affiliée à l'équipe de France ressemble au joueur qui la compose. C'est-à-dire que cette chanson-là, elle peut tout à fait être diffusée dans le car qui va au stade par un des joueurs qui décide de la mettre après une victoire. Alors que la chanson de Catherine Lara ou de Johnny Hallyday, à mon avis, comme ça, naturellement, c'est pas ce que Presnel Kimpembe va mettre sur sa playlist. Mais après, peut-être que je me trompe.
On est d'accord aussi que tous les joueurs qui pratiquent le football, tous ceux qui supportent équipe de France de football ne sont pas forcément issus.
Non mais en fait, moi ce qui m'embête, c'est
des quartiers. Non mais attendez, Christian, pardonnez-moi, mais il y a plein de gens qui ne sont pas issus des quartiers et qui adorent le rap et qui adorent ce rappeur. Moi je ne crois pas que c'est la question.
Christian, le rap, c'est la nouvelle variété française.
Voilà, exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup de soupe comme dans la variété française. Et je ne parle pas pour ce monsieur, encore une fois, mais il y en a beaucoup. En fait, où est le souci? Souvent, c'est mauvais, comme le dit Dominique tout à l'heure, comme l'a dit Dominique tout à l'heure. Là, c'est pas très bon. Vous voyez, ça me dérange pas, moi.
Ma question, c'était où est le problème ? Il y a pas de problème. Ouais, 18h45, la publicité.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
18h45, on refait le match avec Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, David Aiello et Sébastien Tarrago. Avec vous tous également qui nous écoutez. Et vous réagissez sur le compte @RTLFoot. Les messages relayés par Baptiste Durieux.
Absolument, Christian. Premier message, il vient de Karim. Ils nous disent que la Belgique a refusé à Damso. La France l'a accepté pour Youssoupha et le résultat est magnifique. Damso, c'est un rappeur belge qui est extrêmement connu également. Un message de Johan qui est un peu plus critique. La France a plein de talents en termes de football, mais aussi en termes de rappeurs et d'artistes. Il y avait d'autres profils moins polémiques, plus jeunes et plus actuels, dommage. Et puis message de Tristan qui voit un petit peu la polémique d'une autre manière. Le vrai problème en fait, c'est que la chanson n'est pas bonne, tout simplement. On a juste envie de s'asseoir et de réfléchir à la vie. Ramenez-nous VG Dream. VG Dream qui avait composé Ramener la coupe à la maison, que vous connaissez tous, messieurs, n'est-ce pas? J'espère en tout cas.
Pendant la Coupe du Monde. Donc il y en a qui vont. Il y aura des chanteurs, des artistes qui vont s'inspirer du parcours des Bleus pour trouver des
mais
des
c'est choses. Ça, la nature hors du vide et chacun trouvera son compte avec des artistes qui viendront, ça et là, pimenter la compétition avec des chansons qui parleront
de façon plus ou moins heureuse, parce que le coup de boule de Zidane aussi avait inspiré des chansons plus ou moins réussies.
Oui, enfin, dans la chanson de VG Dream, il y avait notamment cette histoire des supporters qui avaient créé un petit chant pour N'Golo Kanté que VG Dream avait repris. Voilà, c'est aussi les supporters qui vont amener quelque chose. Alors peut-être qu'ils seront peut-être pas sur les terrains à Munich ou à Budapest, mais ils auront des réseaux sociaux, ils auront des chants pour s'exprimer, donc ça peut être sympa.
Et on peut en débattre. Non, on fait le match.
Mais on peut débattre pour tout. Ça. Même.
Sans être le porte-parole, le sous-marin ou l'agent de qui que ce soit. On passe à Karim Benzema, mais à propos de Karim Benzema, mi-temps, le championnat d'Espagne, Mathias Valton.
Ouais, et l'Atlético conserve pour le moment ses deux points d'avance sur le Real Madrid à la mi-temps, même s'ils sont menés, les Colchoneros, sur la pelouse de Valladolid 1-0, un but d'Oscar Plano à la 18e. Le Real, lui, est en train de perdre chez lui face à Villarreal, un but de Jérémy Pino à la 20e. Donc le Real, on le rappelle, doit absolument gagner s'il veut être sacré champion d'Espagne et espérer un faux pas de l'Atlético, soit une défaite, soit un match nul.
Et je rappelle que c'est également la mi-temps 12-9 de mémoire pour le rugby. Merci Mathias, retour du football espagnol dans une petite quinzaine de minutes. Karim Benzema, deuxième débat dont fait le match, messieurs, pour le meilleur ou pour le pire? Rappelé par Didier Deschamps, 5 ans et 7 mois de punition pour toutes les raisons que l'on connaît, sportives ou moins sportives, c'est tout le débat et on y reviendra. Ce qu'on voudrait savoir, c'est à propos de ce retour, c'est où, quand, comment? Comment ça s'est fait? Alors, on a un début de réponse avec Guy Stéphan, qui était votre invité, Philippe, hier soir.
Oui, alors, pour remettre les choses
précisément... Le camp, c'était peut-être en avril.
Voilà, la chronologie des choses, pour être très transparent. En fait, Guy Stéphan, je l'ai rencontré quelques minutes après l'annonce de la liste et après la conférence de presse de Didier Deschamps, dans laquelle on a bien essayé, par tous les moyens, de faire dire à Didier Deschamps qui de Karim Benzema ou de staff de l'équipe de France avait le premier dégainé pour essayer d'opérer le rapprochement, à quelle période, pour quelles raisons. On a eu, il faut bien le dire, des réponses assez convenues et pas toujours très lisibles. Guy Stéphan, vous imaginez bien qu'il est aussi dans une logique de communication qui va pas aller à l'encontre de celle du sélectionneur principal, mais dans sa manière de dire les choses, peut-être qu'on peut percevoir que c'est bel et bien le staff de l'équipe de France, Didier Deschamps et son adjoint, qui sont allés vers Karim Benzema et qui ont impulsé ce retour.
Est-ce qu'ils y sont allés physiquement? On le sait, ça ou pas?
Il y a eu une rencontre.
La rencontre, elle est physique.
Entre Didier Deschamps et Karim Benzema, Didier Deschamps l'a confirmé.
Bon, je vous trouve assez prudent et calme sur le sujet, donc je vais poser une question un peu différente.
Vous voulez qu'on s'excite un peu?
Est-ce que Didier Deschamps mange son chapeau?
On a enquêté et que pour l'instant, je peux vous dire que moi, j'ai fait chou blanc. J'arrive pas à savoir où, j'arrive pas à savoir la date, j'arrive pas à savoir qui, comment. Voilà, donc je voulais de la transparence.
Ah oui, bien sûr. Et qui était au courant à quel moment
Donc personne, on n'a pas d'informations.
Moi, ce que j'ai eu comme info dans l'entourage du président, c'est que, effectivement, j'avais pas l'info effectivement sur ce qui a été dit par Didier Deschamps, c'est que sur fin avril, il y a eu cette rencontre. En revanche, ce que j'ai compris, c'est que Didier Deschamps, ou Noël Le Graët, a passé un coup de fil à Karim Benzema le week-end précédent, en gros, pour lui faire comprendre qu'il serait dans la liste. Il l'a prévenu un petit peu en amont avant de lui dire, avant de le dire publiquement, ce qui peut se comprendre. Et par ailleurs, que ça, sur sa longue réflexion qu'il a eue, le rôle de Noël Le Graët a quand même été important dans le sens où il a estimé, il lui a fait comprendre qu'il en sortirait grandi. Que pour lui, ça serait tout à son avantage en termes d'image pour Didier Deschamps que de faire ce pas-là, parce que Didier Deschamps l'a dit dans sa conférence de presse, il y avait une longue réflexion, il y avait une hésitation. Et en tout cas, la position de l'Élégrate a été claire, c'est tu peux y aller, si tu le fais, ça sera positif pour toi.
Alors, on va prendre notre temps hein, pour décortiquer tous les tenants et aboutissants. Mais j'ai une question générique. Est-ce que Didier Deschamps mange son chapeau ? Sébastien Tarragon.
Ça dépend de quel point de vue vous placez. Moi, je pense que oui, un petit peu, parce qu'il était extrêmement ferme. Et moi, je l'avais encore rencontré fin septembre pour un sujet sur le métier d'entraîneur. Et il m'avait reparlé de Karim Benzema. Et il avait dit, la ligne a été franchie, je ne reviendrai pas en arrière. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il était très ferme. Et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était fin septembre. La réalité, c'est qu'il a considéré, après le rassemblement du mois de mars, qui s'est mal passé, qu'il allait dans le mur. Il a raison, il a tort, on peut en discuter. Mais lui, lors du rassemblement du mois de mars, lui et son staff ont considéré qu'il y avait des soucis d'ordre sportif.
Alors, on rappelle les trois matchs. Sébastien, France-Ukraine un partout, but de Griezmann. Kazakhstan-France, 2-0, Dembélé, l'autre but contre son camp. Et Bosnie-France, 1-0 pour la France, toujours à l'extérieur, but de Griezmann.
En tout cas, il a considéré qu'il avait de fortes chances d'aller dans le mur à l'Euro. Et il s'est dit, quelle est la solution ? Sachant que le clan Benzema avait quand même envoyé des signaux positifs. Oui. Et ça, c'est important. Mmh, en fait, le clan Benzema a envoyé des signaux positifs de manière diverses et variées. Et le sélectionneur, après, a pris son téléphone.
Et des signaux positifs pour s'excuser ?
Non, pour dire qu'il avait très envie de revenir.
Voilà.
Ce qu'il avait déjà dit.
Ça fait depuis 5 ans et 6 mois, Benzema avait envie de revenir.
Il y a certains messages qui ont été relayés par Raphaël Varane en interne. Le vice-capitaine de l'équipe de France.
Et pas qu'en interne. Souvenez-vous d'une intervention de Raphaël Varane en conférence de presse. Je me souviens qu'on l'avait diffusée tout de suite sur les antennes à RTL en se disant ça n'est pas anodin que le vice-capitaine de l'équipe de France défende à ce point, même en prenant des gants à l'époque, mais en expliquant que ce que réalisait Karim Benzema depuis maintenant plusieurs saisons était exceptionnel et en laissant passer l'idée qu'il serait un plus pour l'équipe de France. Ce que très peu, voire aucun joueur, ne s'était permis jusqu'à ce moment-là, c'est aussi qu'il y avait un terreau favorable.
Il y a des signaux qui ont été envoyés un peu partout, voilà, comme ça se passe. Tout le monde se connaît dans le milieu du foot. Et ensuite, le sélectionneur à l'aune du rassemblement du mois de mars, que lui a considéré comme quelque chose d'inquiétant, il a pris la décision d'appeler Karim Benzema et d'effectuer cette rencontre. Après, il a réfléchi, il a pris sa décision. Après, honnêtement, à partir du moment où il y avait la rencontre et qu'elle s'est bien passée, l'histoire, elle était pliée.
Oui, alors, parce que si Karim Benzema lui dit ça ne m'intéresse pas de revenir, bon, bah là,
il n'y a pas de rencontre, de toute façon.
On a campé le décor. J'ai plein d'autres questions à vous poser. S'il faut aller jusqu'à 20h, on ira jusqu'à 20h. Il n'y a pas de souci. Mais je voudrais aussi vous parler quand même de la journée de demain. Je voudrais vous parler de la Coupe de France, de la Coupe du Monde, plein d'autres choses. Mais on va prendre notre temps. Nouvelle page de publicité et ensuite toutes les implications que cela comporte, évidemment, en rappelant Karim Benzema. Le vestiaire, le terrain et la psychologie de groupe malgré tout. Et surtout, est-ce que c'est une décision qui est totalement unanime au sein du staff ?
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h et à 20h, RTL Foot toujours avec Dominique Sévrac, Philippe Sanfourche, David Aiello et Sébastien Tarragon. On a campé le décor, on n'a pas beaucoup d'informations sur le où, quand, comment, mais nul doute qu'on va continuer de bosser à la fois sur la chaîne L'Équipe, sur RTL et dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Et on aura des infos incontestablement. Alors, après avoir campé le décor, après vous avoir demandé si Didier Deschamps a, d'une certaine façon, mangé son chapeau, est-ce qu'on est certain qu'il y a unanimité au sein du staff de cette équipe de France ? Réponse très intéressante de Guy Stéphan hier au micro de RTL, au micro de Philippe Sanfourche. Si vous dites qu'une décision qui a été prise à deux est une décision collective, oui, ça a été une décision collective. Ce qui veut dire donc que Deschamps et Stéphan ont pris leur décision, mais pas forcément l'ensemble du staff de cette équipe de France.
Mais Christian, ça change quoi ?
Dominique Sévorac. Ça change que maintenant, il va falloir se projeter sur une compétition où ces jeunes gens vont devoir vivre ensemble pendant un certain temps.
Vous pensez que
Léo
Dubois, tout le staff est d'accord ? En doublure de Benjamin Pavard ?
Non, mais c'est pas... Comparez pas Léo Dubois à Karim Benzema. Ce que je les implications sont pas les mêmes.
Vous pensez que sur Ben Yedder, tout le monde est d'accord dans le staff ? C'est normal que s'il y a des débats ici autour de la table d'RTL, il y en a forcément dans l'équipe de France. Et peut-être qu'il y a des gens dans le staff, je n'ai pas l'information. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit, attends, t'es sûr que c'est une bonne idée quand même ?
Attends, vous me parlez de Ben Yedder. Alors, prenons l'exemple de Ben Yedder. La petite phrase de Deschamps en disant, s'il y avait une liste de 23, j'aurais continué de prendre Karim Benzema. Car Benzema.
Il y a une liste de 11 aussi. Hein.
Parce que. Non, mais. Et, là, et Ben Yedder qui a tenté de faire les matchs amicaux ou de préparation, machin, etc.
Mais Christian, mais il n'a pas de niveau international.
Non, mais je suis sérieux.
On peut pas comparer Ben Christian, Yedder. Mais je veux,
ce n'est pas la question, c'est de répondre cela. De dire que si, avec une liste de 23, j'aurais pris Benzema, car c'est quand même Karim Benzema.
Mais c'est logique.
Ça a été Karim Benzema pendant 5 ans.
Mais qu'est-ce qui vous choque, Christian ?
Eh bien, c'est la façon de le dire.
La façon, de,
la façon de présenter les choses.
Non, mais je veux dire, là, pour le coup, il y a une forme de sincérité, parce qu'il était même surpris, quelque part, à un moment, par cette question.
C'est
mais c'est tout simplement une évidence. C'est-à-dire qu'à partir de... Si vous le prenez... Il n'a pas été pris pour des raisons extra-sportives. C'était pas des raisons sportives. Mais ça, tout le monde en convenait. Donc, à partir du moment où les raisons extra-sportives, on en fait table rase, d'une manière ou d'une autre, pour des bonnes, des moins bonnes raisons... le côté sportif, il est évident.
Mais il n'a pas été pris pendant 5 ans et 7 mois que sur des raisons extra-sportives.
Mais la bien sûr.
Non. L'amorce a été une raison extra-sportive et ensuite l'équipe de France a été championne.
Ah bah oui, ce qui a permis d'apporter une justification facile et confortable
tout
aux sélectionneurs.
Tout le monde sait que c'était pas ça.
Mais dans les faits, ça n'était évidemment pas pour cette raison-là.
Vous pensez que la France n'aurait pas été championne du monde?
Mais la question se pose pas comme ça. Elle a été championne du monde sans Karim Benzema.
Là où je vous retrouve, Christian, sur ce terrain-là, c'est que Didier Deschamps a quand même vendu pendant des mois cette idée que la vie de groupe, que le collectif, que ce qui s'était noué était finalement le tissu était ce qui permettait à cette équipe de France, au-delà de ses qualités intrinsèques, de postuler au plus grand victoire.
Pire que ça, Philippe.
Et là, balayé d'un revers de main ce discours-là, encore une fois, moi, c'est le timing. C'est-à-dire que si Karim Benzema, si le constat qui est fait, il est fait 3 mois auparavant, et que ne serait-ce que sur le précédent rassemblement, Karim Benzema revient dans le groupe, qu'on voit comment ça fonctionne, je trouve qu'il y a une forme de pari sur l'avenir qui ne ressemble pas à ce que Didier Deschamps nous a montré
ça, c'est vrai, Philippe,
pendant des années.
Mais l'alerte pour Didier Deschamps, je vous le garantis,
oui,
c'est
bien.
Le mois de mars.
Donc c'est le pragmatisme à fond les ballons.
Si vous voulez, je préfère éviter ce mot-là, mais oui, puisqu'on le répète tout le temps, mais oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il s'est dit « je vais dans le mur ». Et jusqu'à présent, il ne se disait pas ça.
Il est sûr de gagner, Deschamps.
Pardon ?
Il est sûr de gagner, Didier Deschamps.
Bien sûr que
si
non.
Si l'équipe de France est championne d'Europe,
mais lui,
on oubliera les antécédents. Si l'équipe de France n'est pas championne d'Europe, si ça se passe mal, on dira oui, regardez, j'ai tout essayé.
Je ne suis pas d'accord avec cette lecture.
Si ça se passe très mal, tout le monde va dire il a dérogé à ses principes.
Pourquoi est-ce qu'il a repris ?
Il a été dans le mur tout seul.
Si ça se passe très mal au niveau social.
Oui, mais notamment. Oui.
Mais ce sera par extension.
Mais un peu sur le plan sportif également. Parce que tous ceux qui disaient que Benzema ne peut pas s'en passer sur le plan sportif ont oublié que l'équipe de France avait été championne du monde sans Karim Benzema et que ce n'est pas parce qu'il flambe au Real Madrid qu'il va forcément flamber. Et on va parler du jeu avec Griezmann et Mbappé sur le terrain. Vous êtes d'accord ?
Ah, mais ça, c'est sûr, oui.
18h59, la publicité, les informations de 19h et la suite du débat autour de Karim Benzema. A tout de suite, c'est On fait le match.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, RTL, Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, David Aiello, responsable des affaires institutionnelles dans On fait le match, et Sébastien Tarago, la chaîne équipe. Et vous savez, messieurs, je reçois des messages.
Oui.
Et on me dit, mais on voit pas où tu veux en venir avec ton débat sur Youssoufa. C'est terrible. C'est-à-dire que je ne peux pas, non pas me faire l'interprète, c'est pas ça, mais je ne peux pas poser les questions que certains se posent sur la pertinence de demander à Youssoufa de chanter une chanson qui, je le répète, n'est pas une chanson officielle, mais une chanson qui symbolise le...
Est-ce que vous auriez eu le même débat que Marc Lavoine ?
Mais est-ce qu'on a le débat avec...
Avec Marc Lavoine ?
Avec Patrick
Bruel.
La chanson de Johnny, Feu Johnny Hallyday, ouais. Elle était nulle.
Ah, complètement nulle.
La chanson de Denis Fabre, championnat d'Europe en 84.
Ah, ça j'ai oublié.
Elle était niaise. Aujourd'hui, pourquoi je n'aurais pas le droit de poser dans une émission de débat.
Vous n'établissez pas la question par rapport à la qualité de la chanson. vous établissez la question par rapport au pédigré de l'artiste.
Eh bien non, parce que Johnny Hallyday, à l'époque, sa chanson était mauvaise et on lui reprochait de planquer une partie de son fric en Suisse.
Exactement.
Donc, oui, non, mais.
Excusez-moi.
Je réponds pas.
Non, mais voilà. Écoutez, Youssoupha ne planque pas son argent en Suisse. En tout cas, c'est pas son actualité d'il y a quelques années. Oui. Il a eu une autre actualité. Quand Johnny Hallyday a proposé cette chanson qui était nulle, mais vraiment nulle, c'est juste poli quand je dis ça, on est d'accord. Eh bien, il y avait une polémique sur le fait qu'il planquait son argent en Suisse.
Ouais, pas une grosse, non ?
Et une polémique. Bon,
je pense que la polémique, en tout cas, si c'était Patrick Bruel,
vous feriez l'ouverture d'en refaire le match avec ou pas ?
Je pose la question. Mais ça dépend de la qualité de la chanson, parce qu'au moins, c'est
Patrick Bruel. Parce que je sais pas, Patrick Bruel, il a eu des soucis, il a eu des affaires récemment.
Politisé avec Johnny, qui allait aujourd'hui avec Youssoupha. C'est ça qui est embêtant. C'est qu'à l'époque, peut-être qu'on a parlé un petit peu, et je pense pas qu'on en ait parlé autant, en tout cas que ça a été autant politisé que ça l'est aujourd'hui avec Youssoupha.
Mais tous les interprètes concernant ces chansons ont eu leur casserole.
Christian, on va arrêter de tourner autour du groupe parce que ça m'agace. Mais la réalité, c'est quoi ? Le débat, c'est quoi ?
Qu'il y ait une récupération politique ?
Mais évidemment.
Ah oui.
Donc derrière, il y a un racisme sous-jacent. Qui est lié à cette personne.
Est-ce que vous imaginez que je suis raciste ?
Mais pas du tout.
Bon, vous imaginez que je fais de la récupération de par la déclaration de Jordan Bardella en vous proposant
la
un
réalité,
débat sur cette actualité-là ?
La réalité, c'est celle-ci. Et malheureusement, encore une fois, puisque sinon on n'en parlerait pas, notamment les gens du Rassemblement National n'essayaient pas d'utiliser l'équipe de France de football à des fins politiques, avec l'assentiment de nous, médias, puisqu'on leur donne beaucoup la parole et on les interroge beaucoup trop, à mon avis, là-dessus. Cela n'existerait pas. Je suis assez clair, là.
Non, mais moi, je vais être clair. Au prétexte que le Rassemblement National récupère cette actualité-là, il faut s'auto-censurer et ne pas en parler.
N'établissons pas un lien avec un problème sociétal. Elle est nulle, elle n'est pas nulle. C'est les goûts, les couleurs. Peut-être que vous aimez Dalida.
Mais non, oublie les médias là-dedans, parce que de toute façon, le RN, il a suffisamment de moyens d'exprimer.
Ouais, mais je ne suis pas d'accord avec toi, Dominique.
Non, mais il a suffisamment de moyens. Il y a Twitter, il y a des plateformes.
Ouais, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas le même rayonnement.
Non, mais bon, en tout cas, ils ont suffisamment de moyens pour s'exprimer. Eux, ils ont une grille de lecture. Ils plaquent tout sur les crispations identitaires dont serait victime la France.
Absolument.
Donc, ils prennent tout ce qui traîne. Donc, ça peut être Youssoupha, ça peut être autre chose. Donc, il n'y a aucune surprise de la part de ce monsieur. Numéro 2, vous me dites du candidat en Ile-de-France.
Et d'autres,
France,
on ne connaît pas, mais...
Voilà, il y en a d'autres. Donc, il n'y a aucune surprise. Eux, ils ont un fonds de commerce politique. Ils ont trouvé une chanson, là, cette semaine. Donc, ils regardent tout. Hein. Ils écoutent RT, ils regardent le Parisien.
En préambule, j'étais obligé d'en parler tout à l'heure. Et justement, j'y ai mis toutes les précautions oratoires pour dire qu'il ne s'agissait pas d'être dans le sillage de ce qui se disait par Jordan Bardella. Simplement, c'est une actualité.
On parlait de Benzema, là.
Et moi, je suis désolé de vous dire que c'est une actualité qui a fait les auditeurs ont la parole, qui fait des émissions de débat, ça existe. S'exprime. Donc il faut s'auto-censurer au prétexte que le Rassemblement National s'est emparé du sujet.
Mais pas du tout. Là, on parlait de Benzema avant la pub, avant le journal. Manuel Valls, quand il était Premier ministre, il s'en est servi pour affirmer son autorité. Comme il n'arrivait pas à avoir l'autorité sur d'autres dossiers, il a dit « Ah, c'est super qu'il soit exclu de l'équipe de France. Quand on est mis en examen... »
C'est plus compliqué que ça avec Manuel Valls.
Et vous le savez,
simplement,
politiques.
On ne peut plus rien dire à un moment donné de tension, de fracture, au prétexte qu'effectivement, on prend une position...
Mais on a fait 15 minutes sur Youssoupha, on peut dire des choses.
Oui, mais enfin, les messages. Enfin,
la preuve qu'on peut tout dire.
Mais les messages que je reçois.
On ne parle que de ça. Et dans toutes les émissions, on commence à parler d'un chanteur que personne ne connaît. J'exagère, merci, pardon. Mais que je pense sur l'ensemble de la population française.
Non,
on s'en fiche, en fait. Et la réalité, et là, je ne suis pas d'accord avec Dominique, c'est que. Les médias dans leur ensemble commencent à poser des questions à des représentants politiques sur des choses comme ça avec un sous-texte évident. Et je suis désolé si les auditeurs ont la parole, font un débat là-dessus. C'est aussi parce que aujourd'hui, ce débat identitaire est permanent, fait le buzz et qu'on a une responsabilité. Nous, médias, nous avons une responsabilité à ne pas faire
débat de tout et de rien. Youssoupha fait une chanson sur l'équipe de France, on ne s'intéresse pas donc à la biographie de Youssoupha. On s'intéresse au texte qu'il est en train de faire.
Vous auriez fait un débat ? Non. Les auditeurs ont la parole, auraient fait un débat ? Non. LCI aurait fait un débat ? Non. ITélé aurait fait un débat ? Non.
Mais pourquoi
Patrick Bruel, il me semble qu'il a des petits problèmes en ce moment et ces derniers mois avec la justice. Donc, derrière, il y a quelque part.
Il n'a pas été condamné.
Mais est-ce que monsieur, j'oublie son nom, j'ai du mal avec lui, est-ce qu'il a été condamné?
En première instance, non. En première instance, oui. Et ensuite, il a été. Non, non.
Alors, il n'a pas été condamné. C'est la même chose que Patrick Bruel.
Je constate quand même que poser simplement, calmement le débat, ça crispe tout le monde.
Mais non, pas du tout. Non, je suis très détendu. Moi, si vous me parlez de la chanson, il n'y a aucun souci. Mais tout ce qui se passe depuis 8 jours, depuis mardi dernier, autour de l'équipe de France, me désespère. Et vous savez quoi ? Ça me rend triste. Ça me rend triste, parce que là, on dépasse le cadre du football. Moi, je suis triste de voir cela.
Mais ça fait longtemps, Sébastien.
Oui, ça fait longtemps, mais quand on parle de sport, c'est pire. Parce que qu'il y ait des débats identitaires scandaleux à travers l'action politique, je le conçois.
Tu sais ce qui me rend triste, Sébastien Tarrago, c'est qu'on parle, les médias parlent de la génération black, blanc, beurre lors de 1998. Parce que ça aussi, c'était de la récupération. Mais nous tous, les médias, vous tous à l'équipe, mais aussi à RTL, parce qu'on avait des rédacteurs-chefs à l'époque qui nous disaient il faut faire des sujets sur la génération black, blanc, beurre.
On a bien vu que c'était une blague.
Et après. Bien sûr que c'était une blague.
Bah alors. Mais le réel, il finit toujours par s'imposer. Hein. Pareil pour la chanson, si elle est nulle, elle ne se vendra pas. Si elle est bonne...
Mais après, la nullité, on peut en discuter. Moi, je trouve ça mauvais. Toi, tu peux trouver ça bon. Ce n'est pas le cas, mais tu aurais pu trouver ça bon. Non, mais le débat, on s'en fiche, fondamentalement.
Le débat sur Youssoufa, il ne prendra pas parce que le principe du réel s'imposera et qu'il n'a rien fait, ce monsieur. Donc, il ne prendra pas.
Et moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Quand si on en parle et s'il existe, et c'est là où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, c'est que sur le rôle des médias, les médias aussi, ils répondent aussi, enfin, ils reprennent une attente d'une partie de la population. Je veux dire, ce débat-là, s'il marche et s'il est repris comme ça par les médias, c'est parce que derrière, ça fait de l'audience. Donc il y a aussi une attente d'une partie de la France sur ces questions-là.
Il y a plein de choses qui font de l'audience, et je pense que si vous mettez dans un journal une femme nue, comme cela arrivait en Allemagne il n'y a encore pas si longtemps, vous pourriez vendre des journaux.
Le football, la Liga, Mathias Valton, ça bouge.
Ça bouge, alors moi j'ai pas. Ça a failli bouger, oui, du côté du. Le Real qui vient de marquer à l'instant. Le Real qui vient de marquer à l'instant.
Je sais pourquoi vous êtes hésitant. Je sais pourquoi vous êtes hésitant.
C'est le multiplex et j'ai pas
tout. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a peut-être hors jeu.
Mais Benzema ne l'est pas, à mon avis.
Non ?
À mon avis, Benzema ne l'est pas. Il a deux coéquipiers avant lui qui le sont.
Ça va se jouer encore comme d'habitude.
À mon avis, lui, il est pas.
Il a marqué de la tête la semaine où il est rappelé en équipe de France. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors, il en a mis beaucoup de la tête cette saison.
Il va l'être. Hein, si, il est en jeu. Ouais.
Vous pensez que les épaules sont devant?
J'ai l'impression, mais là, c'est toujours pareil. C'est que sur ces phases-là, ça se joue ça à quelques centimètres. Alors que
le temps de la vidéo, on file à Twickenham pour la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Jean-Michel Rascol.
Avec toujours ce score de parité, 12 partout, entre La Rochelle et le Stade Toulousain. 54 minutes de jeu, mais pour la première fois depuis le début de cette partie, ce sont les joueurs du Stade Toulousain qui font la meilleure impression, qui combinent, qui percent et qui même sont sur le point de marquer un essai. La vidéo est demandée pour un ballon qui a été aplati sur la ligne, mais alors au milieu d'une forêt de gens et de joueurs, donc même la vidéo ne pourra pas donner la vérité sur cette action, c'est du moins mon avis. 12 partout, 55 minutes de jeu.
Et si la vidéo ne donnera pas sa vérité sur le but, pas sûr qu'elle la donne également sur le but qui pour l'instant n'est pas validé.
Mais c'est là, c'est typiquement les phases où le VAR sur le hors-jeu est une vaste blague, parce que voilà, si ça se joue à quelques centimètres, la réalité c'est que l'image n'est pas capable de donner une vérité, on nous fait croire que c'en est une.
Alors Tony Chaperon disait il y a une semaine dans l'équipe, la VAR est une escroquerie, j'aurais aimé qu'il le dise un peu plus tôt.
Bah oui.
C'est vrai, mais aujourd'hui, la raison, vous pouvez avoir une position dubitative au départ.
Bien sûr. Ah non, il n'avait pas de position du tout.
Ah si, il était pour. Ah si, comme l'ensemble des arbitres français.
Il était plus prudent que ça.
Égalisation de l'Atlético, en tout cas.
C'est validé.
De l'autre côté. But de Correa. Donc l'Atlético qui égalise face à Valladolid. Et on attend toujours de voir si la VAR valide le but de Benzema en ce qui concerne le match Real-Villarreal.
C'est validé, hein.
Non, c'est annulé.
Alors plus que jamais, pour l'instant, l'Atlético est champion d'Espagne.
Et typiquement, sur ces actions-là, pendant longtemps, on a dit que les hors-jeux devaient profiter à l'attaquant. Là, on voit que ça ne profite pas du tout à l'attaquant, alors que ça se joue à quelques millimètres ou centimètres.
Quoi. Didier Deschamps, on en a parlé. Ouais. Où, quand, comment, pour faire revenir Karim Benzema. Donc quand, ça devait être en avril. Comment, à deux, Stéphane Deschamps. Didier Deschamps, mange-t-il son chapeau? Vous avez été très très prudent dans le débat. Et je trouve que vous avez oublié quand même les réponses assez ironiques de Didier Deschamps vis-à-vis de certains de vos confrères en conférence de presse qui ne faisaient que leur boulot en répétant leurs questions. Karim Benzema, Karim Benzema, Karim Benzema. Et là, vous dites que, bon, finalement...
Moi, je vous ai dit qu'il mangeait son chapeau.
Absolument, c'est pas ça.
Il a mangé son chapeau sur Adil Rami, sur Tembel Arfa, sur
Mathieu Valbuena. Mais vous parlez de Karim Benzema.
Comme si on découvrait... Et que, évidemment que c'est une énorme surprise dans l'histoire du sport.
Vous m'avez parlé de qui tout à l'heure pour comparer ça à Karim Benzema? C'était
Léo Dubois, parce qu'il n'y a pas
Léo Dubois.
Il y a des débats permanents. Non, non.
Quels sont les risques au sein du staff? Est-ce que le staff est unanime?
Ça, on ne sait pas. Mais alors, en tout cas, qu'il ait consulté le staff, effectivement, ça paraît assez évident. Que cette consultation, au moment de prendre la décision, elle a été restreinte, ça me paraît légitime. On ne prend pas une décision à 5 ou 6, surtout de cette importance-là. Et sur le risque, pour moi, le risque sportif, il est nul, en tout cas, dans le sens où c'est un joueur, évidemment, qui a fait ses preuves. Par contre, le risque, il est si Karim Benzema venait à entrer dans le débat sociétal ou politique.
Bon, oh là là là. J'avais envie de vous poser la question.
Je ne suis pas d'accord sur le risque sportif. Mais
non, attends, quand je te dis il n'y en a pas, je veux dire,
est-ce qu'on réduit?
Pour moi, le risque, il est.
Est-ce qu'on réduit la fracture sociétale avec Karim Benzema? Oula, je ne m'aventure surtout pas à cette question. Mais est-ce qu'on accroît les chances sportives? On parle du jeu un peu.
Mais il faut revenir sur ce que Sébastien dit dès le départ, que le rassemblement s'est mal passé en la dernière fois.
Sur le plan sportif.
Qu'est-ce qui s'est passé notamment? Le staff a constaté que entre des joueurs importants de l'équipe de France, des joueurs majeurs devant, ça ne collait pas. Entre Mbappé et Griezmann, ça ne collait pas.
Ce qui est un peu historique quand même.
Et que si on continuait comme ça, la fracture allait s'agrandir sportive.
Quand tu parles d'une fracture, là tu parles sportive.
Sportivement.
Parce que la fracture, elle n'a pas été que sportive entre ces deux.
Non, mais il se trouve que sur le terrain, oui, la relation technique, elle est assez pauvre entre les deux joueurs phares de l'équipe de France. Et donc, peut-être qu'en ajoutant un troisième larron, qui a beaucoup plus de puissance que Olivier Giroud, qui lui ne peut pas les fédérer les deux. En ajoutant une espèce de monstre comme ça, qui est pour moi le meilleur attaquant d'Europe avec Robert Lewandowski, peut-être que ça va obliger les deux à jouer ensemble, l'équipe de France à jouer ensemble, que ça va réveiller l'ensemble.
Alors comment on joue? Moi je vous pose la question, comment on joue?
Ça, ce sera au staff de travailler à l'entraînement. On ne va pas faire leur boulot avant. Nous, ce qu'on peut faire, c'est poser les questions.
Comment on joue?
Effectivement,
c'est la question.
Le constat dressé par Dominique, il est réel. Mais moi, l'interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'en voulant apporter un remède, on ne risque pas de créer de nouvelles, pas tensions, mais de nouvelles interrogations, de nouvelles problématiques. C'est-à-dire que Antoine Griezmann.
Avec qui et vis-à-vis de qui?
On parle d'Antoine Griezmann.
Voilà,
c'est un garçon qui, on le sait, est en difficulté dans son club depuis maintenant 2 saisons. Et à chaque fois se produit ce miracle qui arrive d'ailleurs avec beaucoup de joueurs. On parlait de Giroud, on peut parler de Pogba, on peut parler de beaucoup de joueurs qui se retrouvent en équipe de France. Est-ce qu'on ne risque pas de venir un petit peu gripper cette mécanique? Est-ce que Antoine Griezmann, qui est le leader technique de l'équipe de France, comme je le répète souvent, dans le vestiaire c'est Pogba qui parle, sur le terrain c'est Griezmann qui parle, c'est lui qui impulse, c'est lui qui donne les phases de jeu.
Ça, c'est d'accord.
Mais... En faisant revenir un joueur de la dimension de Karim Benzema, avec le statut qu'il a, que ce soit dans le vestiaire et encore plus sur le terrain, parce que c'est un joueur omniprésent et un merveilleux joueur, très bien. Mais est-ce que Antoine Griezmann, qui est la patte technique de l'équipe de France, ne risque pas de s'étioler? C'est une des problématiques, et je trouve que ce n'est pas une problématique qui est mineure.
Mettons les pieds dans le plat. Est-ce que ça peut briser l'équilibre fragile de cette équipe de France?
Karim Benzema, de par son histoire avec l'équipe de France et de par le joueur qu'il est.
Quelle histoire?
Il a été absent
81 sélections.
Il est 81, il était absent pendant 5 ans et demi. D'accord. Je ne le vois pas revenir et la ramener, couper la parole de Pogba dans le vestiaire, couper la parole de
Griezmann volontairement,
sur le terrain. Et au contraire, son histoire personnelle montre qu'il a toujours su se fondre dans tous les collectifs, à Lyon, au Real Madrid, qu'il a su se mettre au service.
Mais là, il y a un mois. Il y a un match contre la Bulgarie, et après, t'attaques dans le dur.
C'est une mission commando, mois pour gagner l'Euro. Après, il a envie de gagner l'Euro. Il peut être ballon d'or à la fin si la France gagne l'Euro. Oui, parce qu'on l'a oublié, mais il a quand même fait une saison de malade. Et donc, il ne va pas se priver d'être champion d'Europe.
Non, mais tu as aussi des questions d'équilibre.
David Ayello.
On sait que pendant longtemps, Didier Deschamps a construit son équipe autour d'Antoine Griezmann en disant voilà, je vais la structurer autour de ça. Tu as des questions, comme je disais, d'ego qui ressortent avec la montée de Kylian Mbappé. Au sein même de la fédération, lors de l'année 2018, on se disait, mais comment ces deux-là, à savoir Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, vont finir par... Enfin, comment ça va se terminer entre deux, tellement la tension, on pourrait dire, lors des rassemblements, était palpable. C'était la question qui émergeait au sein de la fédé. Avec le temps, je vous parle de ça en plus, au moment où il y a eu l'histoire du Ballon d'Or, on sait qu'il y a une lutte un petit peu comme ça pour cette conquête-là. Avec le temps, tout ça, c'est un petit peu atténué. Aujourd'hui, on vient mettre un joueur également avec un ego fort, forcément, et avec une place sportive qui sera importante au milieu de tout ça. Quel équilibre va réussir à trouver Didier Deschamps?
C'est le but, hein. C'est le but.
En fait, de réveiller les champions du monde.
Non, c'est le but, c'est de créer un déséquilibre
par rapport à la situation actuelle pour arriver à un nouvel équilibre.
Ça, c'est le style Deschamps, ça.
Non, c'est juste. Non, mais encore attendez. Une fois, il pensait qu'il allait dans le mur. Il pensait qu'il allait dans le mur. Donc là, aujourd'hui, il n'a pas de certitude les équilibres d'ego. Mais il considère que l'arrivée d'un joueur qui n'est pas neutre au milieu de tout cela va rééquilibrer le groupe, va rééquilibrer les égos devant avec Kylian Mbappé d'un côté, Antoine Griezmann de l'autre, et qu'il a plus de chances de gagner l'Euro comme ça que sans.
Moi, franchement,
il a tort, il a raison, on verra. Ouais,
franchement,
ça, c'est la réalité.
Franchement, je me fais l'avocat du diable, et Deschamps va m'en vouloir, mais c'est pas grave. Il pensait qu'il allait dans le mur. Est-ce que vous en êtes certain? Est-ce qu'il n'y a pas un autre contexte qui est venu s'ajouter aux considérations sportives?
Ouais, politique? Pas
non.
du tout.
Non. C'est à quoi? Alors ça, je garantis que...
C'est à quoi, Christian?
La seule chose qui...
Mais si vous avez des infos, très bien.
Non, je crois que c'est tout le contraire.
Moi, quand je sais pas, je me tais.
Non, mais en mars, on lui posait, avant les trois matchs qu'il juge moyens.
Bah, ils le sont. Hein.
Voilà. Je veux dire, en mars, quand on pose une question à Deschamps sur Benzema, il vous envoie bouler.
Au Kazakhstan.
Mais parce qu'il en avait marre.
C'était il y a deux mois à peine.
Hein. Oui, c'est un journaliste. Je ne sais pas quoi vous dire.
Allez, je vous offre une petite respiration.
Je
vous offre une petite respiration avec le premier essai de ce match marqué par le Stade toulousain par l'intermédiaire de l'Argentin Juan Cruz Malia, qui était d'ailleurs un joker médical de cette équipe du Stade, et s'est transformé par Ntamack, ce qui donne 7 points de plus et l'avantage désormais pour le Stade toulousain devant La Rochelle après 60 minutes de jeu. 19-12 pour le Stade qui file vers sa 5e étoile. Ce n'est pas fait, mais c'est en cours.
Merci Jean-Michel.
Est-ce qu'il prend un risque?
Et intervention à tout moment, sans doute.
Est-ce qu'il prend un risque? Oui, pas forcément.
Tant que ça. Sans doute, évidemment. Mais pas tant que ça.
Mais
si l'équipe
la question
de France,
aujourd'hui, c'est Antoine Griezmann.
Attendez, quel risque prend-il? Vous posez une question, il faut une réponse. Quel risque prend-il?
Mais que ça ne fonctionne pas.
Si ça ne fonctionne pas, on vous dira, oui, j'ai tout essayé, on m'a demandé même de faire venir Benzema.
Non. On parle de foot, là.
Est-ce qu'on peut parler de foot, c'est le meilleur.
Moi, je vous dis que la question aujourd'hui, c'est comment va réagir Antoine Griezmann? Comment il va réagir?
Et Grisou?
Pardon?
Oui, Grisou.
Oui. Comment va réagir Antoine Griezmann? C'est une pierre dans son jardin. Très clairement. Donc, vous avez vu à quel point Kylian Mbappé exprimait sa satisfaction. Antoine Griezmann est plus discret. Ça rééquilibre, parce que forcément, selon le système qui va être choisi par Didier Deschamps, Antoine Griezmann peut par exemple se retrouver sur le côté droit. Et par exemple.
Gauche.
Non, à gauche, je pense que ce sera Mbappé. Mais bon, si c'est un 4-3-3 comme ça, il peut se retrouver sur un côté. Et très clairement, le message qui est envoyé, c'est que jusqu'à présent, Antoine Griezmann était au centre de tous les choix tactiques de Didier Deschamps et que ce n'est plus le cas. Donc, comment il va réagir? Soit il va réagir positivement, parce que Didier Deschamps, il n'est pas fou, il le sait, et il va discuter avec lui. Donc, soit il va réagir positivement et ça peut fonctionner. On verra, mais ça peut fonctionner. Soit il ne va pas réagir positivement. Et là... Par exemple, Karim Benzema, Kylian Mbappé auront un rôle à jouer, un rôle collectif pour ne pas exclure Antoine Griezmann.
Avançons. Il y a deux tests.
Je pense qu'on avance.
On avance. Mais avançons. Vous m'avez pas parlé du Pays de Galles et de la Bulgarie. Ce sont deux matchs préparatoires. On avance là. On approche de l'Euro. Si ça ne marche pas, si les tests ne sont pas probants, Benzema peut être remplaçant?
Non.
Ou il sera à coup sûr titulaire contre l'Allemagne? Moi, je vous pose la question que se pose le grand public.
À la Coupe du Monde.
Attendez, Dominique, on va venir sur toi. Non, dit Sébastien Tarrago. Et bien sûr qu'il peut être remplaçant, dit Philippe Sanfourche.
Moi, je vous dis que oui.
Karim Benzema remplaçant.
Aucun problème.
Contre l'Allemagne?
Sans aucun problème. Je pense que l'expérience justement de la Coupe du Monde 2018 et de ce premier match un peu laboratoire, et heureusement que c'est contre l'Australie, et heureusement que derrière t'as le Pérou pour te refaire la cerise, là c'est pas la même chose. Là t'es dans un groupe où il y a et l'Allemagne et le Portugal, et puis un match dont on ne sait pas trop ce qu'il pourra donner contre la Hongrie, chez eux. Tu ne peux pas te rater sur le premier match. Si... De manière factuelle, objective, sportive, pragmatique, exactement de la manière dont il a fait revenir Karim Benzema dans le groupe. S'il sent, s'il voit à l'entraînement tous les jours, si les deux matchs n'ont pas été probants, si Olivier Giroud s'est refait la cerise comme il sait le faire, dans un mode guerrier, je reviens, je suis en équipe de France, je me bats, et qu'à l'entraînement, il sent que la connexion, elle est meilleure entre Giroud, Mbappé et Griezmann à ce moment-là de la compétition, sans pour autant que ce ne soit pas le cas sur le match d'après ou sur celui qui est suivant, et bien pourquoi est-ce qu'il démarrerait forcément avec Karim Benzema? Je pense que son pragmatisme, il le jouera jusqu'au bout.
Convaincu, Sébastien Tarrago?
Non, mais en revanche, dans le football, il est évident que tout peut arriver. Et donc, je ne m'aventurerai pas à dire non, c'est impossible que Karim Benzema soit remplaçant face à l'Allemagne le 15 juin. Mais alors, je serais très surpris et cela me paraît extrêmement improbable.
On est d'accord si que la logique.
Je pense qu'il y a 99,9% de chance, 99,9%, que Karim Benzema soit titulaire le 15 juin en Allemagne.
En faisant ce qu'il a fait là, Didier Deschamps, il a envoyé clairement le message à tout le monde qu'il était totalement libre de ses choix et qu'il ne s'interdirait rien. Ça, c'est le côté positif qu'on n'a pas forcément noté par rapport notamment au débat qui était le nôtre avant sur les implications politiques. On a suffisamment dit qu'il était téléguidé politiquement. Là, il a prouvé à tout le monde que c'était sur des choix purement sportifs à quelques encâbleurs de la compétition qui faisait un revirement total.
On est d'accord. Atlético Madrid, Mathias Valton.
Oui, et bien l'Atlético qui prend l'avantage et qui file tout droit vers son 11e titre de champion d'Espagne. Et grâce à qui? Et bien grâce au pistolero Luis Suarez qui est parti en contre et allait battre le portier de Valladolid 2-1 pour l'Atlético Madrid qui a plus que jamais son destin entre les pieds. Et en tout cas, Luis Suarez qui avait déjà, on le rappelle, donné la victoire à l'Atlético lors des dernières minutes, lors de la dernière journée, et qui là encore risque de l'offrir. Luis Suarez qui, on le rappelle, avait quand même été poussé dehors par le Barça.
Finale de la Coupe d'Europe de rugby, Jean-Michel Rascol, La Rochelle-Toulouse.
Le jeu est arrêté depuis 3 minutes après la blessure de Lindenberg, le trois quarts centre remplaçant de l'équipe du Stade Rochelet. Toujours est-il que c'est bien le Stade Toulousain qui mène 19-12, il reste moins de 20 minutes et qui offre aussi la meilleure impression dans cette deuxième mi-temps. Je le disais, le Stade Toulousain qui file probablement vers une cinquième étoile. Il faut rappeler que les joueurs Rochelet jouent à 14 depuis maintenant la 26e minute de la première mi-temps.
Merci Jean-Michel Rascol. Le sondage Odoxa RTL Winamax concernant Karim Benzema. On vous en a délivré les premières informations dès 18h hier soir. 77% des amateurs de football, estiment que c'est un apport sportif incontestable, le retour de Karim Benzema. En avril 2016, ils étaient 25%, rendez-vous compte. 68% des amateurs de football, par conséquent, estiment que Deschamps a eu raison de rappeler Karim Benzema. Voilà pour les chiffres, même si au niveau de la popularité ou au niveau de l'impact dans les vestiaires, les chiffres sont plus mitigés. Le compte @RTL Foot, les nombreux messages, Baptiste Durieux.
Sur l'intégration de Benzema justement dans cette attaque des Bleus, Simon nous dit que ça ne marchera pas forcément mieux, mais au moins on aura essayé, ce ne sera pas pire que ce qu'on a vu au mois de mars. Certains joueurs seront ravis, d'autres seront réveillés, c'est stratégiquement parfait. Et puis message d'Étienne qui a déjà sa vision sur l'animation offensive des Bleus. Laissez Griezmann en 10, comme d'habitude, et laissons Benzema en pur numéro 9. Rappelons que c'est aussi un finisseur et un super joueur de tennis. Je ne vois pas comment ça pourrait déséquilibrer l'équipe.
Oui, enfin, une fois qu'on a dit ça, Griezmann en 10 et avant-centre Benzema, on ne sait pas qui joue à droite et on ne sait pas non plus qui joue à gauche.
Griezmann et Messi sont deux formidables joueurs. L'un est peut-être le meilleur de tous les temps et ça fait 2 ans qu'ils se marchent sur les pompes.
Et une des meilleures attaques de tous les temps, en tout cas au Barça, c'était Suarez, Neymar, Messi, et ils ont remporté qu'une seule Ligue des Champions.
La publicité, messieurs.
Quand ça a marché, ça a marché.
La publicité. On va parler un peu de la Ligue 1, tout de même. Formidable Ligue 1. La publicité, on refait le match. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Oui, énorme dossier sur Karim Benzema qui se poursuit même pendant la publicité. C'est toujours intéressant d'essayer d'enregistrer ce qui se dit pendant la publicité et de pouvoir le diffuser. Non mais Sébastien Tarrago pose une bonne question. Comment on va jouer? Comment va-t-on jouer en 4-4-2, en losange, etc. Donc
Non, moi je dis juste que il me semble illusoire d'imaginer, comme je peux l'entendre ces derniers jours, que Didier Deschamps évolue avec 4 joueurs offensifs, par exemple Coman, Griezmann, Mbappé, Giroud. Je n'y crois pas une seconde, et en plus je pense que ce serait une mauvaise idée si l'équipe de France veut gagner.
Donc pas de Benzema avant-centre,
oui. À ses côtés
Griezmann derrière, oui. Mbappé à gauche, Coman à droite. Mais ça, c'est 4 offensifs. Là on est d'accord, là c'est pas possible.
Non.
D'accord.
Il y a Rabiot donc à gauche.
Non mais ce qui serait intéressant déjà, c'est de voir s'il va au moins le tester.
Attendez, si vous mettez Rabiot à gauche, vous mettez Mbappé à droite?
Je le mets devant
Benzema.
Ah mais ça mais deux attaquants de
pointe. Deux attaquants 4-4-2. L'équipe de France est championne du monde en 4-4-2. D'accord. Elle joue en 4-4-2 depuis des années.
Mais sans Benzema,
c'était Giroud, Griezmann, ça devient Benzema, Mbappé l'attaque.
D'accord.
On change l'attaque. Ça n'empêche pas que Griezmann peut être juste derrière en rôle de numéro 10. Vous protégez tout ça avec un petit milieu à 3. De gauche à droite. Rabiot, N'Golo Kanté, Paul Pogba. Voilà, ça c'est, vous avez vos 6 devant.
D'accord.
Il en faut encore 5 derrière. Un gardien qui s'appelle Hugo Lloris. On part à droite par Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez. Le point faible, c'est l'arrière droit. Le point faible, c'est l'axe gauche. Kimpembe qui peut à tout moment péter un boulon, prendre un rouge comme on l'a vu à Rennes. Donc c'est ça vos deux points faibles. C'est l'axe gauche et l'arrière-droit. Sinon, sur le papier, c'est plutôt pas mal.
Donc raison supplémentaire pour que ça...
est un maillot faible. Moi, je suis absolument pas d'accord avec cette thèse, mais...
C'est pas le meilleur arrière-droit du monde, mais c'est pas mal. C'est vos deux petits points faibles de l'équipe.
Ah oui, non.
Bon, on peut discuter de Varane, mais enfin bon, ça deviendrait long.
Alors, ce championnat est formidable, figurez-vous, car il a été vilipendé en début de saison, en cours de saison,
pas
ça va aller rien, etc. Mais pourquoi est-il formidable ? Parce qu'il y a du suspense. Mais est-ce que le suspense est gage de qualité ?
Mais non.
On est en droit d'en avoir un peu de temps en temps quand même.
Philippe Sarfouche.
Ça fait 7 ou 8 ans que tous les 15 mars, on s'aperçoit que le PSG a 20 points d'avance et qu'on n'a plus qu'à plier la boutique.
Et moi, je vous parle de la qualité, pas du suspense.
Ça fait pas de mal.
On a quand même peu de monde qui d'un seul coup se met à dire la Ligue 1 est fantastique parce que le niveau de jeu est fantastique. Si on trouve la Ligue 1 effectivement excitante et intéressante cette saison, c'est parce qu'effectivement il y a ce suspense à tous les étages et qu'on vibre un petit peu plus qu'auparavant où effectivement, comme le disait Philippe, au mois d'avril on se disait, ou voire au mois de mars, c'est plié.
Il faut décorréler le niveau du suspense. Il n'empêche, vous avez eu quand même cette saison des matchs d'un plus haut niveau que d'habitude, je trouve. Le Lyon-Lille est un match extraordinaire. Est un match de championnat extraordinaire. Et il y a comme ça plusieurs matchs qui sont très intéressants. Ce que Monaco a fait cette saison, et pas que contre Paris qui l'a battu deux fois, Monaco a proposé.
Mais c'est pas sur la durée. Moi, ce qui m'embête, c'est que si on parle du jeu, sur le niveau de la Ligue 1,
le Real n'est pas génial 38 journées.
Combien d'équipes tu pourrais me citer qui sur une longue durée, c'est-à-dire sur 3-4 mois, ont affiché un niveau de jeu satisfaisant?
Le PSG, Lille.
Non. Le PSG
sur 3-4 mois.
Un niveau de jeu
sur 3-4 mois, oui.
C'est quoi les trois? Plutôt 3-4 bons matchs du PSG cette saison en Ligue 1.
Gagné, donc là,
non, mais je te parle du niveau de jeu, de ce qui est produit dans le jeu. Me dis pas
qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le foot? Dans le sport?
Ça, c'est Sébastien Tarago qui pose la question à David.
Non, mais parce que c'est bien sûr la qualité, l'esthétisme.
Le pragmatisme de Deschamps.
Non, c'est pas ça.
Un jeu extraordinaire.
Pas moi, mais bon, ça c'est le problème.
Le championnat de France, on n'a pas non plus un jeu extraordinaire.
Moi, ce qui me plaît dans le sport et dans le foot en particulier, ce sont les émotions liées au renversement, liées à l'inattendu. Voilà, moi c'est ce que je place au-dessus de tout,
au suspense.
Si vous voulez le résumer ainsi,
tu peux avoir des émotions parfois comme ça sur un match techniquement très pauvre.
Bien sûr,
ça peut arriver.
Absolument.
Et donc toi, ça passe.
Pour moi, ça c'est le truc numéro un dans ce que j'aime dans le sport. Et après, il y a l'esthétisme du jeu et tout ça. Donc, ça peut être pauvre dans le jeu et formidable à vivre. C'est tout.
Mais pourtant, la Coupe du Monde 2018, que tu avais trouvé un petit peu pauvre de l'équipe de France, en termes d'émotion, de renversement, elle est géniale.
Après, l'émotion, c'est quelque chose de très personnel. Et moi, je n'ai ressenti aucune émotion avec cette équipe.
Le France-Argentine.
France-Argentine.
Je trouve que c'est.
Il y a un match. Bon,
okay. J'ai trouvé qu'il y avait toutes les émotions.
Oui, mais après, l'émotion, c'est quelque chose de très personnel.
Oui,
c'est une question de goût. C'est comme les chansons.
Prendre la grille de Sébastien, PSG Saint-Etienne, c'est un match à émotion incroyable. La qualité technique n'est pas dingue, mais le match, il a émotion. Et moi, tu me demandes plusieurs matchs. Moi, je trouve que ce que Mbappé a fait sur la deuxième partie de championnat.
Mais tu parles de Mbappé, moi, je te parle du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est Paris Saint-Germain, c'est Lyon-PSG cette saison.
D'accord, mais Mbappé, c'est un joueur majeur du championnat de France.
D'accord, mais là je te parle du niveau de jeu globalement des équipes.
Son niveau de jeu sur les 4 derniers mois.
Mais tu me parles de Mbappé, je parle du PSG.
Mais il joue au PSG. Hein.
Mais non, mais d'accord, mais tu es le premier. On a été le.
Pour l'instant.
On est quand même globalement d'accord pour dire que Mbappé a été extrait un petit peu du Paris Saint-Germain.
Il n'y aurait que Lille qui aurait bien joué cette saison.
Non, mais on a compris, Dominique Sévra, que Mbappé était au-dessus du lot. D'ailleurs, ça va se vérifier avec les trophées NFP, on en parle dans un instant. Mais vous m'avez cité qu'un seul match quand même, pour lequel vous êtes régalé. Lyon, un seul match.
Le match du PSG à Lyon aussi. Là,
ça fait deux.
J'ai aimé le Classico, le deuxième, pas le premier, qui a terminé en pugilat. Le deuxième, le 2-0.
Ça fait trois.
Non, mais voilà,
le premier, on vient plus.
Le Lille-Saint-Etienne de la semaine dernière était bien, était rigolo.
Est-ce que Lille fait un beau champion? Ou fera un beau champion? Ou ferait un beau champion?
Oui.
Sébastien Tarago, plus circonspect.
Non, mais écoutez, par rapport aux turpitudes qui ont eu lieu dans ce club cette saison, ce serait formidable. Après, Bon,
oui.
Voilà. Si vous m'expliquez que Lille est une grande équipe et tout, non,
ce qui est certain, c'est que il y a un débat d'ailleurs. Kylian Mbappé a eu des mots qu'il a dû un peu reprendre sur le thème. Est-ce que c'est le PSG qui s'est banané ou est-ce
pas
que
très
ce
grave,
sont
d'ailleurs.
Les rivaux? Non, mais c'est là où on voit que Mbappé est aussi un peu un état dans l'état aujourd'hui. Et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en troisième ou quatrième rideau, mais le fait de lui mettre Karim Benzema dans les pattes, c'est aussi une façon de rééquilibrer les choses.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, réveiller les champions du monde.
Ah, oui, mais tout à fait, ça fait partie des différentes implications.
Oh, stop, le rugby, Jean-Michel Rascol, la finale.
Ah, avec un coup de pied de pénalité qui pourrait donner encore un petit peu plus d'air à cette équipe toulousaine. C'est Ntamack qui frappe ce ballon, qui va passer entre les poteaux et 3 points de plus pour cette équipe qui mène désormais 22-12 face à La Rochelle. Il reste 11 minutes dans cette finale. Il faut marquer deux fois pour La Rochelle pour revenir à hauteur du Stade Toulousain.
Et l'Espagne, c'est terminé. Je ne sais pas si Mathias Valton est avec nous. Mathias?
Oui, c'est pas terminé du tout. Ah non, il reste encore 10 minutes de jeu plus les arrêts de jeu.
Très mauvaise image alors, et un très mauvais chronomètre. Bon, et pas de changement en tous les cas, c'est l'Atlético qui va être champion, on est d'accord.
Juste une chose.
Oui.
Non, pour conclure quand même sur ce que je vous disais par rapport à la qualité du champion et la qualité de Lille.
Oui.
On n'enlèvera rien à la performance des Lillois sur
Bien
ce champion,
sûr.
C'est une évidence.
Évidemment.
Mais on n'oubliera pas de rappeler quand même qu'il aurait suffi que dans un match moyen, le PSG aille l'emporter à Rennes il y a deux semaines de cela, pour que le PSG soit champion avec encore une fois Lille qui a laissé des points contre Saint-Étienne.
Alors vous
ce que je veux dire, c'est que on n'est pas sur le championnat 2017 quand Monaco avec Mbappé, Falcao, Bernardo Silva va en demi-finale de Ligue des Champions et termine champion avec plus de 90
mais
points.
Mais vous considérez que c'est fini alors
par défaut,
vous considérez que demain il ne se passera rien alors
Il suffit de regarder le scénario en Espagne aujourd'hui pour s'apercevoir que tout peut
David Ayello.
Et puisque tu parles de Coupe d'Europe, moi également, pour jauger un petit peu du nouveau championnat, je vais regarder toujours les prestations européennes. Si on extrait le Paris Saint-Germain des performances françaises, Nice, Rennes, Marseille et Lille cette saison, c'est honteux au niveau du football français. Donc on ne peut pas pour moi décorréler ça du niveau du championnat. Qu'il y ait eu du suspense, c'est une très bonne chose, mais ça ne veut pas dire pour moi que le football français de club progresse.
Je suis assez d'accord avec
contre l'Ajax, mais contre l'AC Milan avant, c'était pas
mal. Ils ont mis deuxième de leur poule, enfin, tu vois, c'est pas non plus.
Oui, messieurs.
Globalement, le bilan est catastrophique.
Oui, oui.
Messieurs, autre sondage Winamax sur la Ligue 1 cette fois-ci. Très intéressant, puisque 53% des amateurs de foot voient désormais le LOSC Lille être champion de France demain soir sur le terrain d'Angers. 53% effectivement. 40% le PSG, 7% l'AS Monaco. Intéressant également, si le PSG ne remporte pas la Ligue 1, les amateurs de foot persistent à penser que ce serait davantage son échec à lui, 58%, que le succès des autres équipes.
C'est
41%.
Ce que vient de dire Philippe, hein. On a l'impression avec 8 défaites que le PSG s'est tiré une balle dans le pied. Il suffit d'un nul dans les 8 défaites et ils sont champions de France.
Ou tout simplement d'avoir mieux négocié le match face à Lille, qui était le face-à-face direct.
Mais admettons qu'ils aient perdu, parce qu'ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu contre Lille, ils ont perdu contre toutes les équipes du podium, soit une fois, soit deux fois, comme face à Monaco. Mais il suffisait d'un nul contre Nantes, par exemple, à domicile, un nul à Lorient quand tu mènes 2-1. Ce nul-là, si demain tu gagnes, tu serais champion de France.
Et les auditeurs de RTL sont des connaisseurs, fins connaisseurs du football, puisqu'une grande majorité dégage Christophe Galtier comme étant le numéro 1 meilleur entraîneur devant Pochettino et Kovac.
Non, pas Pochettino.
Oui, Pochettino.
Ah, d'accord, des connaisseurs alors.
Kylian Mbappé. Je suis
désagréable, mais je suis là pour ça.
Kylian Mbappé, meilleur joueur de Ligue 1. Et donc, on va parler un petit instant quand même à 19h40 avant la publicité des trophées UNFP. Alors, il y a quelques fuites. Il y a quelques fuites. Concernant le meilleur joueur de Ligue 1, ont été nommés, vous le savez, Neymar, Mbappé, Yılmaz, Depay et Ben Yedder. J'en ai pas oublié. C'est demain qu'on saura.
Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 5 nommés cette saison alors que le règlement prévoit qu'il y en ait 4.
Bon, ça, c'est pas grave.
Déjà,
il y a une honte, c'est que Neymar soit dans les nommés.
C'est de
La Rochelle, Jean-Michel Rascol.
Et c'est de La Rochelle, marqué par Kerr Barlow, le demi-mêlée, là, qui est venu auprès d'un regroupement qui s'est expulsé de ce regroupement pour aplatir entre deux défenseurs toulousains. Cette finale est relancée à moins de 7 minutes de la fin. Le score 22-17, transformation à venir.
venir.
Vous n'écoutez pas Jean-Michel Rascol.
Vous étiez très dissipé.
Il est très étonné par le retour.
L'essai, on le suit. À 19h41, ça peut rebattre les cartes, Jean-Michel Rascol.
La transformation est très importante parce qu'elle permettrait à La Rochelle de revenir à 3 points du stade toulousain à 7 minutes de la fin. C'est Yaya West, le néo-zélandais demi d'ouverture, qui va tenter cette transformation. Il a loupé un coup de pied de pénalité depuis le début de cette rencontre et il a bien compris toute l'importance de cette transformation qui peut permettre à son équipe de revenir dans cette finale qu'on croyait perdue il y a encore quelques instants. Il faudra remarquer derrière pour peut-être arracher des prolongations. Toujours est-il que dans un premier temps, il faut marquer ce coup de pied, un ballon placé à droite au-delà de la ligne des 22 mètres. Il va taper pied droit, le ballon va passer entre les poteaux. Non, les gars, il tape le poteau et donc essai non transformé. Il faut marquer un autre essai pour La Rochelle pour tenter de remporter cette finale. Il reste 7 minutes.
À suivre, bien évidemment, avec Jean-Michel Rascol à 19h42. On en était au trophée UNFP. Donc 5 nommés
alors que le règlement prévoit 4. Donc peut-être qu'on a rajouté Neymar pour amuser la galerie.
Mais on aurait pu en mettre 7 également. Pourquoi
mais non, mais le règlement dit 4. Donc je ne sais pas pourquoi il y en a 5.
Mais, et Delors et Laborde, non.
Ça ne me choque pas. Ils ont été bons, eux, cette saison.
Ben voilà. Donc on aurait pu en mettre 7 à ce moment-là. Ou 6 si vous enlevez Neymar.
Non, enlever Neymar. Ouais.
Bon, alors Neymar, ça fait un peu. Bon, ce sera Kylian Mbappé, on est d'accord.
J'imagine.
Mais oui, Kylian Mbappé.
C'est le meilleur joueur du championnat, non?
29 matchs, 25 buts. 7 passes décisives.
Hein, c'est un peu comme Youssoufa, y a pas
Neymar, 14 titularisations, 17 matchs, 9 buts, 4 passes décisives. On est d'accord? On est d'accord,
oui, ça, sur les chiffres.
Mbappé,
on
est ce sera Mbappé. Bah, vous êtes friand de chiffres, de statistiques.
Pas les joueurs, c'est les joueurs qui votent. Donc,
ça, c'est Philippe qui est friand de chiffres. C'est gratuit, c'est comme ça.
C'est pas grave en même temps d'être friand de chiffres.
C'est pas une honte.
C'est intéressant. Le meilleur gardien de la Ligue 1, selon vous?
Navas?
Ah oui.
Bah, si vous me dites Maignan, c'est
non.
Que...
Mais Navas a affûté, c'est Navas. Bah oui, Keller et Navas, ça vous paraît tout à fait normal.
Les matchs, quand même.
Aux Parisiens, ça vous paraît normal.
Si on vote, il vaut mieux regarder les matchs. Hein. Mm-hmm. Parce que ce que Maignan a fait à Lyon le soir où ils ont gagné 3-2 quand même, je l'ai pas vu.
Mais
Navas,
est-ce que les joueurs regardent tous les matchs ou est-ce que tous les joueurs regardent certains matchs?
Ah, j'ai l'impression que les joueurs regardent moins de matchs que les joueurs.
Non, mais après, est-ce que franchement entre les deux, bon, c'est pas. Pour moi, si ça avait été Maignan, ça n'aurait pas été un scandale non plus.
Il y avait Mandanda.
Plus fort que Navas.
Mandanda, Maignan, c'était moi, une belle blague quand même.
Mais il y avait.
Non, mais c'était une belle blague.
Benjamin Lecomte également.
Blague aussi.
Et moi, j'aime bien Anthony Lopez. Je suis désolé de vous dire que j'aime bien Anthony
Lopez. Ça fait deux saisons, sacrément de ça, ouais. des standards.
Vous pouvez l'aimer, son style, vous pouvez aimer sa personnalité.
On parlait de lui pour son style et pour son niveau de jeu. Là, hélas, on passe
pas beaucoup plus de lui pour son style. J'aime moins quand il prend son cérébral, mais sinon, c'est pas mal.
Meilleur entraîneur de Ligue 1.
C'est Galtier, vous l'avez dit.
C'est Galtier.
On l'a dit déjà. Oui. Ah oui, on l'a dit.
Si c'est quelqu'un d'autre que Galtier.
Non, mais ça, c'est pas Pochettino.
Si, mais ça, c'était le débat. C'était le sondage.
Ah, oui. Voilà.
Mais ce sera.
Ça pourrait être Kovac.
Et alors, il y avait Kovac, il y avait Rudy Garcia. Oui, Pochettino, il n'est pas dans
mais
les.
Mais ça, aussi, c'est quand même. Gênant. C'est
Christophe
gênant
Pélissier. Christophe Pélissier, entraîneur de Lorient.
On nomme l'entraîneur avant la fin de la saison.
Il va peut-être se sauver, donc il est le meilleur entraîneur de France.
Et moi, j'aime bien Franck Haes.
Vous ne trouvez pas quand même que sur le fond, le fait qu'on attribue le prix avant la fin du championnat, ce soit gênant pour le meilleur entraîneur?
Écoutez, c'est moi qui pose les questions.
Oui, moi, je vous fais la réponse, alors je trouve ça un petit peu à con. Oui,
mais ça a toujours été le cas, non?
En Angleterre, on vient de désigner.
Ils font comme ils veulent, les Anglais. Mais moi, je trouve que sur le fond, c'est un petit peu. Si à la fin.
Christophe
Galtier est meilleur et sacré champion de France avec Lille, ne pas lui donner, vu l'effectif qu'il a, ne pas lui donner.
En Angleterre, ils n'ont pas attendu que le championnat soit terminé, puisqu'ils ont désigné Ruben Dias. Mais je crois que c'est jamais le cas. On n'attend jamais la fin du championnat.
Bon, on pourrait.
Le meilleur espoir de la Ligue 1. Vous avez la liste, les amis?
Tchouaméni.
Pas la liste, non.
Alors, je vous la donne.
Non, mais c'est Tchouaméni.
C'est une info? C'est sûr? Bon, bah, d'accord.
Je crois, non,
il y avait Camavinga. Il y a les monégasques Diop et Tchouaméni. Bon, bah, Tchouaméni.
Ouais.
Cacré, Lyon.
Cacré, ouais.
Il n'a pas été souvent titulaire, pas toujours.
Et Amine Gouiri, GC Nice.
Tchouaméni réalise une grande saison.
Le Parisien a révélé que c'était Tchouaméni.
Diop a été un petit peu sabré par sa blessure parce qu'il était à un moment donné sur des.
But de Karim Benzema, égalisation du Real Madrid, messieurs. Un magnifique plat du pied droit dans la lucarne, vraiment un joli but. Ça ne change rien puisque l'Atlético mène toujours 2-1 contre Valladolid. Donc l'Atlético se dirige vers un nouveau titre de champion d'Espagne. Et pour les amateurs de jolis buts, je vous invite à regarder aussi la magnifique volée d'Antoine Griezmann qui a ouvert le score avec le Barça contre Eibar. Elle est vraiment sublime.
Vous voyez, ça l'a piqué au vif.
Oui, c'est ça, il a pas aimé. Exactement.
Il n'a pas déjà aimé.
Bon, on a tout dit sur les trophées UNFP.
On a déjà bien trop dit.
Non. Neymar est dans le 11 majeur.
Formidable.
C'est bien. Si les gens l'ont vu, c'est bien.
Écoutez,
ce sont pas les gens, ce sont les joueurs.
Non, mais les gens, les joueurs. Si ils l'ont vu jouer, je suis content pour eux. Moi, je l'ai pas vu cette saison.
Mais c'est peut-être pour ça. Le problème, c'est que les joueurs ne regardent pas.
C'est comme quand le Ballon d'Or était décerné uniquement par les joueurs. Vous leur posez la question, ils vous répondent à qui vous avez envie de jouer. Ils vous disent Neymar,
ou ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux.
Il faut arrêter de donner de l'ampleur.
Donc on ne donne plus aucune récompense, on fait disparaître le ballon d'or, les trophées.
On pourrait l'annoncer par un collège ou de supporters ou de journalistes.
Mais c'est un éternel débat, regardez le ballon d'or.
Bah c'est mieux.
Oui, c'est mieux depuis que le ballon d'or est revenu dans le giron de ceux qui connaissent le football.
Ceux qui regardent des matchs.
Quand il a été vendu à la FIFA, c'était moins bien.
C'est génial, Christian, on est payé pour regarder des matchs. Mais nous, on les regarde. Et eux, ils ne sont pas payés pour ça. Ils sont payés pour jouer, c'est différent.
Avant les messages sur RTL Foot, le compte Twitter, le meilleur joueur français évolué à l'étranger, on boucle la boucle.
Écoutez, ce sera Karim Benzema.
Pas trop de suspense.
Mais je vous donne les noms quand même. Hugo Lloris, Tottenham, N'Golo Kanté, Chelsea, Karim Benzema, Madrid, Ferland Mendy, Real Madrid et Ousmane Dembélé, le FC Barcelone.
Il y a le meilleur but aussi de la saison. Sera attribué.
Voilà. Oui, mais là c'est beaucoup
après,
trop, on n'a pas le temps.
19h47. Ce truc-là, si N'Golo Kanté lève la Ligue des Champions dans quelques jours... Il s'en foutra de ne pas être le meilleur joueur de français à l'étranger, je peux vous le dire.
Bon, j'ai vu que le débat ne vous donnait pas satisfaction. Vous vous en fichez finalement. Quoi.
Bon, on n'est pas très.
Le football est un sport collectif, parfois il faudrait le rappeler un peu.
Mais c'est pour ça qu'il faudrait aussi le rappeler à tous ceux qui pensent que Karim Benzema va sauver l'équipe de France et que Karim Benzema va. Voilà, ça se joue.
Elle n'est pas sauvée.
Et le jeu fantastique collectif développé au Real Madrid, il faudra qu'il le soit également collectivement développé sous les couleurs de l'équipe de France.
Ça devient un problème. C'est fou quand même. Comment c'est passé en quelques jours? Ça serait un problème de rajouter Benzema à cette équipe.
Mais c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions en équipe de France de football. Le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux, vos messages.
Sur les trophées UNFP, ça va être assez rapide. Vincent nous dit les trophées. Une FP, c'est comme Dijon cette saison, c'est une blague. Voilà, on s'arrêtera là. Message également sur ce championnat extrêmement serré. Message de Yohan nous dit, mais pourquoi c'est serré? Parce que tout le monde est mauvais, en fait. Personne n'enchaîne de manière significative en termes de jeu et de résultats. Paris et Monaco, par exemple, en 2017, ça n'avait strictement rien à voir. Et message de Flavien également, je suis beaucoup plus emballé par la course au maintien, par le Nantes des derniers matchs que par Lille potentiellement champion. Ce sera un champion, un vrai, mais un champion poussif et loin d'être magnifique. Et puis l'analyse de Corentin également. Lille est champion, mais problème, c'est que les meilleurs joueurs de Lille, c'est Monaco, Lyon, Paris et Marseille, simple comme bonjour.
Oui, le débat, on dit qu'il y a 60 millions de sélectionneurs, il y a 60 millions d'avis également, et en tout cas on vivra sur la radio, sur RTL, un multiplex phénoménal, demain dimanche, entre 20h et minuit. Une petite page de publicité, et puis ensuite le rugby, toujours 22 à 17.
C'est presque terminé, Christian.
Jean-Michel Rascol, toujours 22-17, c'est bien cela, hein?
Exactement, 22-17, mais il reste 20 secondes dans cette finale. Les Toulousains ont le ballon, s'ils conservent, ils vont conquérir leur 5e titre européen. Voilà, ils conservent à nouveau, et à 15 secondes de la fin, les Toulousains ne pourront plus être rejoints, sauf peut-être une faute de main. Antoine Dupont à la manœuvre, là, qui garde le ballon. Il regarde derrière lui pour Médard qui va mettre en touche. Non, c'est Romain Tamac qui a pris ce ballon, mais qui est serré de très près par deux attaquants de La Rochelle. Est-ce que le ballon est toujours toulousain? Je pense bien que oui. Et c'est Dupont, en maître d'œuvre, là, qui va mettre le ballon dans les tribunes pour sceller la victoire du Stade Toulousain, 22 à 17. Un essai de chaque côté, en vous précisant que La Rochelle a joué pendant 55 minutes à 14. Cela n'explique pas la défaite de La Rochelle, parce que La Rochelle a fait un bon match, mais le Stade Toulousain avait ce petit quelque chose en plus qui fait qu'à la 60e minute, eh bien le club et ses joueurs sont passés devant.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Le championnat d'Espagne, on approche de la fin également, Mathias Valton.
Ouais, il reste 30 secondes à jouer et c'est Modric qui vient de donner l'avantage dans les arrêts de jeu au Real Madrid, 2-1 pour le Real face à Villarreal, mais ça ne changera rien puisque l'Atlético gagne lui son match, il gagne face à Valladolid, 2-1 également, donc c'est l'Atlético qui dans 30 secondes va être sacré champion d'Espagne pour la 11e fois de son histoire.
On revient derrière la publicité, Mathias Valton.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
19h51, on fait le match toujours avec Philippe Sanfourche pour RTL. Dominique Sévrac, bonsoir pour le Parisien aujourd'hui en France. L'homme des affaires institutionnelles, David Ayello. Et Sébastien Tarallo, bonsoir Sébastien.
Sébastien n'en revient pas. Moi-même, je n'en reviens pas.
Peut-être. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, on a quand même dit la semaine dernière que Karim Benzema ne reviendrait jamais en équipe de France. Donc, voilà.
Je n'osais pas le dire par respect pour votre immense travail et personne. Personne ne l'imaginait en vérité. Voilà. Voilà.
Ah non, là, oui, celui qui revient aujourd'hui en disant ouais, je le savais.
Je vous l'avais dit.
Non, non, je pense qu'il peut rentrer chez lui très vite.
Faisons preuve d'humilité.
Mais oui, très bien. Oui.
Les amis, les tirs au but, le sifflet est prêt, on démarre. Oui, Mathias, on va voir Mathias effectivement pour le championnat d'Espagne. C'est terminé, Mathias Valton.
Ouais, et c'est l'Atlético qui remporte son 11e titre de champion d'Espagne grâce à sa victoire 2-1 face à Valladolid. Des buts de Correa et Luis Suarez pour les Colchoneros. Luis Suarez qui avait déjà été sauveur de l'Atlético lors de la dernière journée. Alors, c'est le 10e titre sur 11 que l'Atlético remporte lors de la dernière journée. Et puis, le dernier qu'ils avaient remporté, c'était il y a 7 ans, en 2014. Donc, l'Atlético de Madrid champion, malgré la victoire du Real Madrid également dans le même temps de 2-1 contre Villarreal.
Retour sur cette actu. Merci Mathias Valton dans le Club de l'Europe, notamment entre 20h et 22h avec Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Xavier Domergue et Quentin Vasselin, sans oublier Raymond Abou. Les tirs au but, le sifflet est prêt, Lewandowski qui égale le record de Gerd Müller.
Qui le dépasse.
Il l'a égalé la semaine passée.
Il l'a dépassé aujourd'hui.
Alors, taille XXL, est-ce qu'on peut comparer Lewandowski à Gerd Müller?
Déjà, on ne l'a pas connu. Enfin, moi, personnellement, Gerd Müller, je ne l'ai pas connu. Donc...
Alors, Sébastien Tarrago,
j'ai pas vu jouer Gerd Müller. J'ai vu des images, évidemment. Oui, donc c'est délicat. Après,
C'est pas du tout le même jeu, déjà. Gerd Müller, c'est deux buts, point de pénalty, je me retourne et je marque des buts.
Lewandowski est un joueur complet, vraiment impressionnant. C'est-à-dire que ceux qui imaginent qu'il ne le voit pas jouer souvent et qui imaginent que c'est un piqué dans la surface de réparation, ce n'est absolument pas le cas. Lewandowski est capable de beaucoup. Dans une équipe, c'est un joueur immense. Il aurait mérité d'être ballon d'or s'il y avait eu un ballon d'or en 2020. Pourquoi pas, même s'il sera sans doute sanctionné par son équipe nationale cette saison, pourquoi pas aller l'arracher cette année?
Moi, je considère que... Mais peut-être que j'ai tort, que ce qu'on fait aujourd'hui, quand on bat des records, c'est plus dur aujourd'hui de battre des records que ce que Gerd Müller a fait à son époque. Je trouve que jouer au football aujourd'hui avec les défenses resserrées, alors il y a peut-être moins de coups, mais je trouve que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de mettre 41 buts qu'à l'époque de Gerd Müller.
Oui, après les terrains sont meilleurs aujourd'hui, il y a des fautes qui sont sifflées qui ne l'étaient pas avant.
Et c'est plus tactique aujourd'hui, avant c'était un peu n'importe quoi.
Il s'agit pas de défaut, mais juste Lewandowski, je voyais encore tout à l'heure... l'athlète que c'est là quand il était torse nu, souvent c'est un grand gabarit, il est massif, et on associe souvent peut-être à tort, parce qu'on voit maintenant qu'un garçon comme Haaland aussi est en train de peut-être un petit peu de changer la vision qu'on peut avoir de ces joueurs là il y a une finesse technique, une finesse de jeu chez Lewandowski,
c'est pas Horst Rubesch,
on ne souligne pas suffisamment.
C'est pas
seulement un joueur qui met des têtes au deuxième poteau ou qui met des pralines.
Gros défaut de chez Lewandowski, c'est son agent Pinizahavi, qui est l'agent de Neymar. C'est vraiment
juste pour donner, parce qu'on dit 41 buts, on rappelle juste que c'est sur 34 journées qu'il en a joué que 29, donc ça situe quand même le bonhomme, quoi.
Rubesch, vous avez connu quand même, Sébastien Tarrago.
Ouais. J'ai connu, mais je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas vu jouer, cher Christian.
Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France cette semaine face à Monaco, compétition dévalorisée ou dépréciée ou bien victime de l'actualité de la semaine?
Elle est totalement dévalorisée. Et elle l'a été, non pas... Alors, j'ai entendu beaucoup de railleries sur l'organisation par rapport au protocole sanitaire, le fait qu'il ait fallu à un moment donné mettre les amateurs d'un côté, les professionnels de l'autre. Ça, pour moi, c'était la moins mauvaise solution, et c'est par rapport à une situation donnée qui, on l'espère, n'existera plus dans les années à venir. En revanche, je trouve que cette finale cristallise beaucoup de choses. C'était totalement à huis clos, à un moment où on s'aperçoit qu'on est en train un petit peu de desserrer les cordons. Je pense que tout n'a pas été fait pour qu'il y ait un peu de monde, quitte à ce que ça se fasse ailleurs qu'au Stade de France. Mais le Stade de France, il y a des contrats, et il y a des contrats avec les télés. Donc on commence à 21h15, on fait ça le mercredi à 21h15, donc il n'y a pas un gamin qui peut regarder ces matchs. Donc pour moi, c'est un fiasco total au niveau de cette finale.
C'était l'éditorial Coupe de France de Philippe Sanfourche. La Coupe du Monde après la Coupe de France, tous les deux ans, bonne ou riche idée?
Insupportable.
Ni riche, mauvaise.
Insupportable pour Sévrac, mais notre responsable des affaires institutionnelles, David Ayello.
Mais non, mais la beauté de la Coupe du Monde, c'est sa rareté. Tous les 4 ans, on attend. Au bout de 2 ans, on en est là. On se dit, mais c'est quand? C'est pas l'année prochaine, ça va venir, etc. L'affaire tous les ans, pour moi, c'est une hérésie. Ça va banaliser le produit, si on veut parler justement comme les marketeux.
Memphis Depay, bientôt à Barcelone. Lyon perd gros ou joueur trop controversé?
Il n'a pas signé à Barcelone encore. Hein.
Bientôt.
On verra. Parce que Ronald Koeman, s'il perd son poste, je pense que Memphis Depay se la remettra en cause l'arrivée de Memphis Depay. Mm-hmm. Mais après, Memphis Depay, ouais, quand j'entends qu'il a marqué l'histoire de l'Olympique Lyonnais, je suis moins d'accord. Je trouve pas qu'il aura laissé une trace incroyable dans ce club.
Très mauvaise nouvelle pour le championnat de France. Parce que c'est avec ces joueurs-là qu'on prend du plaisir à suivre l'autre actualité que celle du Paris Saint-Germain. Donc, malheureusement, je suis quasiment sûr...
Moi, je prends plus de plaisir avec Paqueta qu'avec Memphis Depay.
Oui, mais voilà, mais parce que c'est quand même des joueurs qu'on ne voit pas dans les autres clubs. Donc, moi, je pense, malheureusement, qu'il ne sera pas remplacé par quelqu'un d'aussi fort.
Ces derniers jours, on a assisté, messieurs, à une addition de recours devant les tribunaux, devant le CNOSF, Lyon, le Paris Saint-Germain, Lille, etc., etc. Ma question, ras-le-bol de cette armée de mauvais joueurs, ou finalement, sont-ils dans leurs droits ?
Honteux.
C'est vrai ?
Honteux. Insupportable, votre Coupe du Monde, tous les... Et là, c'est honteux. C'est un dévoiement des règlements. C'est pas fait pour ça, le recours au CNOSF, c'est insupportable.
Et on devrait, quand on s'engage dans une compétition, on devrait signer un document qui interdise d'aller effectuer des recours, notamment devant la justice civile. Alors là, c'est le CNOSF, devant la justice civile, parce que il y a un moment, c'est plus possible, en fait.
Ouais, mais
là,
c'est normal qu'il y ait une juridiction qui permette de faire des appels.
Ouais, mais il y a un moment, tu t'engages dans une fédération.
À l'heure où tous les clubs sont endettés jusqu'au cou, qu'il n'y ait pas des services juridiques avec 15 avocats qui sont surpayés pour justement aller chercher des niches pour essayer d'aller débusquer ce genre d'affaires, on s'en porterait pas plus mal.
Et ma dernière question, tout en gentillesse et en bienveillance, question Ligue 2, notamment pour Sébastien Tarrago, quel est le meilleur joueur de la Ligue 2 cette saison qui a reçu hier son trophée UNFP ?
Ah non ?
Amine Adli.
Oui, non, je vous laisse répondre sur Amine la Ligue 2. Je connais trop la Ligue 2 autour de cette table, en fait.
Amine Adli,
finalement. Et le meilleur entraîneur ? Je vous avais dit que ce serait qui le meilleur entraîneur ?
Gastien.
Eh ben oui.
Va-t-il aller à Marseille, Amine Adli, ça ?
Je ne sais pas.
Voilà. Messieurs, quelques notes de musique.
Ah. Voilà qui je suis.
Voilà qui vous êtes.
Ah non, mais ça c'est bon, ça encore.
22h32, Christian.
C'est la chanson là de. Bah, c'est de quoi là déjà ? De l'Eurovision, c'est ça ?
L'Eurovision, ouais, ah, l'Eurovision oui. Ce soir,
22h32, mais alors Youssoufa, ça sera à quelle
heure ? C'est bon, ça encore. Voilà. Vous auriez préféré ça pour l'équipe de France ?
J'adore cette chanson.
C'est vrai ?
Regardez-moi, Sébastien.
Non, mais je sens une émotion chez vous. Mais c'est bien, ils ont pris un truc des années 60. Ils ont pris une jeune fille des années 2000.
Des années 30, ça, c'est plus. C'est
allez, merci à vous tous. Merci Dominique Sévrac. Merci Philippe Sanfourche. Merci David Aiello. Merci Sébastien Tarrago. 20h-22h. RTL Foot avec toute l'équipe d'Eric Silvestro et de Xavier Domergue. On n'oublie pas, on les cite tous, Giovanni Castaldi, Raymond Abou et Quentin Vasselin. Publicité, les informations de 20h.